de cet avion. On parle évidemment ce soir aussi du déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État qui est dans l'avion en ce moment pour la Nouvelle-Calédonie, il doit arriver d'ici une dizaine de minutes a priori. Double objectif pour le président, le retour à l'ordre et renouer le dialogue avec les populations locales après une semaine d'émeutes dans l'archipel. On écoute tout de suite Gabriel Attal aujourd'hui.
Le président de la République vient pour engager une discussion qui devra permettre à un accord politique global d'émerger. C'est le sens de son déplacement. Il s'y rend avec un groupe de contact. Il sera, le président de la République, au contact de l'ensemble des forces vives de la Nouvelle-Calédonie, politiques, économiques, de la jeunesse, de la société civile, coutumière. Et à travers les personnalités qui l'accompagnent et qui resteront sur place autant qu'il le faudra, nous parviendrons à faire émerger un accord politique global. C'est la seule voie possible pour atteindre le chemin du pardon et le chemin de l'avenir. C'est pour cela que nous sommes engagés.
Faire émerger un accord politique global. Pour en parler, Brigitte Girardin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne ministre de l'Outre-mer. Vous avez été ministre de l'Outre-mer de 2002 à 2005 sous Chirac. Bienvenue à vous sous Jacques Chirac. Merci. Bienvenue à vous sur ce plateau. On est également avec Amandine Atalaya du service politique. Rebonjour à Amandine et Guillaume Fard, puisqu'il y a aussi l'aspect sécuritaire.
Oui, il y en a un.
Évidemment, il n'y a pas que ça, mais il est bien présent. Il va falloir apaiser la situation. Brigitte Girardin, on vient d'entendre le Premier ministre dire voilà, il sera question de trouver, de faire émerger un accord politique global. Est-ce que vous êtes optimiste, 24 heures sur place tout au plus pour Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il va trouver de quoi apaiser la situation?
Alors, tout d'abord, je pense que c'est une très bonne chose que le président se déplace dans le contexte actuel. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises interprétations sur la brièveté de cette visite. Et c'est pour ça que j'y vois le point de départ d'un processus qui risque d'être long. En tout cas, il est nécessaire de rétablir un climat de confiance, un dialogue, et ça prend, de l'expérience que j'ai, du temps, de la patience, de l'écoute et du respect des interlocuteurs que nous avons en face de nous.
Et vous craignez là qu'il n'y ait pas les ingrédients nécessaires ?
Je crains qu'on ne dissipe pas suffisamment rapidement tous les malentendus et toutes les maladresses qui se sont déroulées au cours notamment des deux dernières années. Entre le troisième référendum, entre la...
Il y a eu en 2021,
pendant le Covid. Donc, qui a donné l'impression qu'on ne respectait pas vraiment les accords de Nouméa et que l'État sortait de son impartialité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accord de Nouméa, comme les accords de Matignon, donne à l'État un rôle très précis, qui est un rôle d'impartialité, de faire émerger un consensus entre les différentes parties et de ne pas s'impliquer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un rôle difficile. Moi, j'ai eu à mettre en œuvre les accords de Nouméa. Je n'ai pas participé à leur rédaction, mais tous les comités de suivi qui se déroulaient, j'ai pu constater que ce n'est pas facile de maintenir ce consensus sur tous les sujets, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux. Donc, on est toujours un peu sur le fil du rasoir.
Les accords de Nouméa, on le rappelle, c'était en 1998 et cela permettait de transmettre plus de compétences, de les transférer de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Sauf que l'argument du gouvernement notamment, c'est de dire oui, mais cet accord, il a été rendu caduque par les trois référendums qui ont eu lieu depuis et qui disent tous non à l'indépendance.
Alors, pas du tout, parce que l'accord de Nouméa prévoyait cette hypothèse qu'après les trois référendums, le non à l'indépendance soit toujours là. Et il était prévu qu'après ces trois référendums, on fasse une grande réunion avec tous les partenaires pour essayer d'imaginer un avenir en commun pour ce territoire. Donc, malheureusement, cette phase qui aurait dû commencer après le troisième référendum, elle n'a pas vraiment débuté parce que ce troisième référendum s'est déroulé dans un contexte qui n'était pas approprié. Et je crois que le problème vient de là. Alors ensuite, il y a eu des maladresses. Faire entrer au gouvernement une élue calédonienne d'un camp.
Sonia Pérez.
Voilà. Je ne sais pas elle qui est en cause, mais ça donnait un message qui n'était pas justement un message d'impartialité de l'État. Et puis ensuite, il y a eu cette réforme pour le corps électoral. En soi, on peut en penser ce qu'on veut. Je veux dire, c'est sans doute un sujet qu'il va falloir traiter. Simplement, l'erreur, à mon avis, qui a été faite, c'est qu'il ne fallait pas le traiter de façon isolée.
On rappelle peut-être pour nos téléspectateurs ce qu'est cette réforme. C'est donc le dégel du corps électoral. Les listes électorales pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, elles sont gelées à leur état de 98. Et cette règle qui limite donc le droit de vote pour ces élections aux personnes qui vivaient dans l'archipel avant 98 exclut à peu près 20% de la population, soit à peu près 25 000 personnes. Et donc les nouveaux arrivants. Et ce que veut faire le gouvernement, c'est de dire, ce gel n'a pas lieu d'être, on va le dégeler pour permettre à ces nouveaux arrivants de voter aussi aux élections provinciales, sauf que les populations locales, les indépendantistes, les Kanaks qui sont minoritaires, eux, estiment qu'ils vont perdre du pouvoir si on prend en compte les nouveaux arrivants. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas une question qui doit être taboue. Je veux dire, c'est une question qu'il faudra traiter. Simplement, il ne faut pas la traiter de façon isolée. L'accord de Nouméa, c'est un ensemble. On est arrivé à un moment où il faut préparer une nouvelle phase. On ne peut pas traiter les questions de façon séparée. Il faut une négociation globale. Et j'ai l'impression, d'après ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui, que c'est un peu l'état d'esprit d'essayer d'aboutir à un accord global pour que ces communautés qui, de mon point de vue, veulent vivre ensemble. Moi, j'ai toujours constaté sur place qu'il y avait ce destin commun, cette volonté de destin commun était largement partagée. Mmh. Simplement, il faut, encore une fois, savoir écouter, prendre son temps, avoir de la patience. Moi, j'ai eu à quelques occasions sur place, mesuré à quel point c'était important d'avoir de la patience. Et de respecter notamment des pratiques coutumières, de ne pas heurter. Mmh. Vous savez, quand j'ai préparé le voyage de Jacques Chirac en juillet 2003, je me suis rendue à Ouvéa en juin 2003, un mois avant. Après le drame qu'avait connu cette île, c'était important de faire ce geste, de revenir et j'ai passé 24 heures à non seulement aller à la gendarmerie, mais aller aussi évidemment sur les tombes des Kanaks qui étaient décédés lors de ce drame. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de pratiques coutumières pendant une journée pour respecter tout simplement ce peuple qui a ses traditions. Et il faut savoir à certains moments écouter et respecter ceux qui vous accueillent.
Et vous craignez que ce ne soit pas le cas pour Emmanuel Macron qui ne vient que pour 24 heures ?
J'espère que ce sera perçu comme le point de départ de quelque chose et d'un processus qui, je l'espère, sera un processus de discussion et de négociation et que tout le monde se mettra autour de la table pour examiner tous les sujets. Vous savez, je peux vous citer un deuxième exemple. Moi, j'ai vécu le cyclone Erika en 2003, qui a détruit toute la province Nord, où c'était de l'habitat traditionnel. J'ai veillé à ne pas arriver en disant « on va reconstruire des habitats qui résistent aux calamités naturelles ». Pour ça, je me suis rapprochée de Marie-Claude Tjibaou et ensemble, nous sommes allés dans les tribus Kanak, dans la province Nord, pour expliquer qu'il fallait maintenant faire des constructions différentes, en dur, pour pouvoir résister aux différentes calamités naturelles. Et il ne faut pas brusquer... Je donne cet exemple parce qu'il ne faut pas brusquer les choses. Il faut chaque fois faire en sorte que tout le monde adhère à ce que l'on propose et ne pas imposer. Bon, d'une façon générale, je dis toujours que l'outre-mer, c'est l'école de l'humilité. Jacques Chirac avait pour habitude de dire que l'outre-mer, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, loin de moi l'idée d'aller porter des jugements sur il faut faire comme ceci ou comme cela.
Mais il faut qu'il la retire, sa réforme ?
Je pense que ça me paraît inévitable.
Qu'il la reporte, en tout cas.
Oui, qu'il la mette de côté et que ce sujet, encore une fois, qui n'est pas un sujet tabou, qui devra être traité, il doit être traité avec d'autres sujets, dans le cadre général de l'accord de Nouméa. tout doit être mis sur la table. Et le défaut de la méthode qui a été adoptée jusqu'à maintenant, c'est d'avancer par petits morceaux. Quoi. On se met pas à détricoter un accord en commençant à régler un problème passer les problèmes des imprésions. C'est une négociation globale, Madame Gérardin.
Parce que le comité des signataires s'est réuni jusqu'en 2019. Oui. C'est récent qu'on a changé de méthode. Ça fait 4-5 ans.
Écoutez, je constate que je ferai peut-être un commentaire général sur l'outre-mer. Vous savez, Jacques Chirac avait considéré en fait que l'outre-mer faisait partie de son domaine réservé. Donc, il portait une attention soutenue et permanente à toutes nos collectivités d'outre-mer. Donc, il y avait un lien particulier qui s'était établi. Il y avait un intérêt très fort. Il n'y avait pas d'indifférence. Il y avait un investissement personnel très fort. Donc voilà, j'ai l'impression que le domaine réservé pour l'outre-mer, c'est fini depuis son départ de l'Élysée.
Il ne s'intéresse pas aux outre-mer, Emmanuel Macron, selon vous ?
Pas de la même manière.
Oui, c'est différent. C'est différent. Mais en tout cas, encore une fois, c'est très bien qu'il s'y rende. Simplement, j'espère que ce ne sera pas perçu comme une maladresse en raison de la brièveté de ce passage.
Mais vous le sentez un peu indifférent. C'est ce qu'on ressent en vous écoutant.
Mais ce n'est pas une question de personne. Je crois que globalement, vous savez, après le départ de Jacques Chirac, le ministère de l'Outre-mer a été supprimé. Il faut quand même s'en souvenir. Un ministre sans administration, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc, quand vous n'avez plus d'administration, ça veut dire que vous n'avez plus de fonctionnaires spécialisés sur l'outre-mer. C'est-à-dire que la connaissance du terrain, elle se perd. Vous savez, 12 collectivités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il faut faire du sur-mesure outre-mer en permanence. Donc, c'est compliqué, c'est très long pour s'investir personnellement sur chacun de ces dossiers qui concernent l'outre-mer. Il y a une très grande spécificité dans chacune de ces collectivités. Donc, ça prend du temps. Voilà. Donc,
Est-ce que vous avez des informations sur les personnalités qui pourraient mettre en place justement pour rétablir ce dialogue, etc. Vous-même, vous avez...
Ah, moi, je n'ai pas d'informations.
Alors, Amandine Atalaya, tiens, est-ce que du service politique, quelles infos a-t-on sur le programme, sur les interlocuteurs qu'Emmanuel Macron va rencontrer? Puisqu'effectivement, tout s'est fait à l'improvise. Je crois d'ailleurs que les interlocuteurs sont contactés directement ou identifiés depuis l'avion.
Oui, tout à fait, oui. Il faut dire que rien n'était calé depuis quand Emmanuel Macron est parti.
L'avion fait comme ça, on passe des coups de pied. Attendez, excusez-moi.
C'est quand même incroyable. Il a même profité de l'escale, à Vancouver, pour continuer à caler des rendez-vous. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Il n'a qu'un voyage maintenant qu'il a fait sa surprise pour arriver à caler ses rendez-vous. Et sur les profils, il s'agit de 3 hauts fonctionnaires qui vont mener cette mission. Un spécialisé sur la sécurité, un spécialisé davantage sur l'économie, le secteur du nickel et tout ce que vous expliquiez sur socialement tout ce qu'il y a à réparer, et puis un davantage sur les institutions.
Mais quelle est la tête politique? Parce que des hauts fonctionnaires, c'est très bien, mais qui est le politique?
À moins qu'il nous fasse une surprise, parce qu'il doit prendre la parole a priori en descendant de l'avion, donc d'ici peu. Pour l'instant, il n'y a pas d'incarnation forte politique, mais ça fait peut-être partie de ce qu'Emmanuel Macron garde sous le coude pour l'annoncer.
Parce que des hauts fonctionnaires, ça rencontre à quelqu'un. C'est pas autonome, un haut fonctionnaire.
Ça, c'est certain. Après, la mission des années 80, c'est un préfet qui était à la tête de cette mission à l'époque. Il y avait 6 personnes. Il y avait un franc-maçon, il y avait un chanoine, un pasteur et puis des plus spécialistes. Là, Emmanuel Macron n'a choisi que des spécialistes. Alors, c'est très techno. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ces 3 hauts fonctionnaires, ça vous paraît judicieux?
Il faudrait un ancien ministre de l'Outre-mer, idéalement. quelqu'un qui connaisse le sujet, c'est très spécifique, chaque collectivité.
Merci du cadeau. Non, mais je crois que ça va prendre du temps. Il faut rétablir la confiance. Et la situation est quand même très grave.
Mais vous pensez qu'il faut justement une figure politique pour conduire ce travail-là.
Franchement,
des techniciens, c'est pas péjoratif, mais
non, mais c'est pas un choix entre politique et technicien. Je crois qu'il faut surtout envoyer des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la Nouvelle-Calédonie et qui connaissent même l'ensemble de l'Outre-mer, parce que vous savez, il y a quand même la crise Covid a été, de mon point de vue, un tournant outre-mer. Mmh. Et moi, je sens très bien couver un malaise identitaire dans tout l'outre-mer depuis cette crise Covid. Mmh. J'avais connu ça dans les années 2000, où il y avait déjà une crise identitaire qui couvait, et on avait fait avec Jacques Chirac une révision constitutionnelle pour donner plus de souplesse, plus d'autonomie, d'une certaine façon. Mmh. En tout cas, des statuts un peu à la carte, c'était la fin des dom-toms.
Ouais.
Et on avait évidemment pris une grande loi de développement économique. Depuis 20 ans, je pense que vous avez pu noter qu'il n'y a pas eu de grande loi de développement économique outre-mer. Donc, ils se sentent un peu délaissés, un peu oubliés. Mmh. Et qu'on s'y intéresse que quand ça va mal, c'est pas très bien perçu.
Justement. Peut-être qu'on peut les écouter, ces manifestants qui tiennent les barrages et qui ne comptent pas lâcher jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron retire sa réforme. On écoute quelques témoignages.
On lâche pas. Jusqu'à le. Qui va retirer le texte là, qui va voter. On lâche pas. Jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages.
De toute façon, ils passent habitués. Il y en a qui passent avec le pain, ils nous déposent du pain. De l'eau. Du coup, c'est tranquille. Il y a les habitués, déjà, ils nous connaissent ici sur les barrages.
Tout ce que vous entendez, qu'on est essoufflé et tout là, on n'a pas essoufflé, nous. On attend que ce texte-là, il soit retiré, parce que ce texte-là, c'est l'élimination du peuple kanak. Déjà qu'on est minoritaire, s'ils font passer ce texte au congrès de Versailles, nous, on est foutus. C'est ça qu'ils ne comprennent pas là-bas. Déjà, on est minoritaire chez nous.
Voilà pour ces témoignages. Guillaume Fard, il doit s'attendre à quel comité d'accueil Emmanuel Macron, qui doit arriver bientôt en Nouvelle-Calédonie?
Sur le plan de l'ordre public, la situation est loin d'être rétablie. Évidemment qu'il y a un mieux. On part de loin. On part d'un pic de crise où l'État ne maîtrisait plus rien. Les forces de l'ordre étaient davantage préoccupées par leur propre sécurité et celle de leur famille, et n'étaient pas en mesure d'assurer leur mission, faute de nombre et face à l'ampleur des émeutes. Et donc on part de cette situation-là et on arrive à une situation où, certes, il y a un mieux, l'état d'urgence produit un certain nombre d'effets, les renforts de policiers et gendarmes, même 1131 policiers et gendarmes supplémentaires en renfort depuis le début de la crise, cela produit aussi des effets sur le terrain.
1131 renforts de
policiers et gendarmes supplémentaires. Ça veut dire très concrètement qu'on a envoyé 9 escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires, certains CRS, notamment les fameux super CRS, enfin des CRS 81, 82, etc., qui ont été créés il y a 4 ans, et puis en appui des fonctionnaires du RAID et certains militaires de la gendarmerie qui appartiennent au GIGN. Tout cela pour essayer de réinverser le rapport de force. La rue était tenue par des émeutiers qui avaient organisé un certain nombre de barrages et se livraient à des actions de prédation. Il fallait rassurer la population sur le fait que la propriété privée serait garantie et que vous ne risquez pas, en tant que personne qui possède un certain nombre de biens, qu'on se rende chez vous de jour comme de nuit et qu'on vous dépouille. Parce que sinon, ça se terminait en guerre civile, avec le fait qu'il y a 100 000 armes en circulation sur l'île et tout le monde se tire dessus. Et en République française, ça n'est pas une option que l'on procède ainsi. Et donc, il fallait rétablir la situation de ce point de vue. C'est partiellement fait. C'est encore très incomplet. La nuit dernière, il y a eu un nombre d'incendies, des stations essence. La sécurité n'est pas garantie.
Deux écoles la nuit dernière et 300 véhicules d'un concessionnaire incendiés.
On continue à être brûlés. Un certain nombre de barrages sont toujours présents à l'heure où on se parle. Et puis, il y a la question des différentes exploitations de nickel qui sont sous pression. Et là encore, il n'est pas raisonnable d'envisager que les émeutiers puissent continuer d'y porter atteinte, d'autant que c'est une richesse pour l'île.
Alors qu'on voit donc l'avion d'Emmanuel Macron qui est en train de se poser à l'aéroport de Nouméa. Il n'est donc pas exclu, Amandine Atalaya, qu'il prenne la parole à sa sortie de l'avion ?
Oui, tout à fait. Oui, il est fort possible qu'Emmanuel Macron s'exprime à la sortie de l'avion. Et on attend beaucoup de réponses. La première étant, est-ce qu'Emmanuel Macron envisage ou pas de reporter le congrès ? Il ne l'a toujours pas dit. Est-ce que cette mission de fonctionnaire, pour combien de temps est-elle installée ? Dans les années 80, elle était restée 3 semaines. Avec qui ? Seulement les 3 hauts fonctionnaires ? Pour quel résultat ? Est-il toujours prévu, oui, a priori, que Gabriel Attal s'y rende après les élections européenne. Que va faire exactement, même cette, la réponse à cette question on ne l'a pas, que va faire exactement Emmanuel Macron pendant son séjour? Qui va-t-il rencontrer? Y a-t-il des leaders indépendantistes kanak importants qui acceptent de le voir?
Tout ça, on n'a pas la réponse. Autant, c'est que non, des points d'interrogation.
C'est rare d'ailleurs que le président arrive comme ça à un endroit et qu'on ne sache à peu près rien, mais c'est précisément ce qu'il a souhaité, ce mystère. Donc maintenant, on va voir ce qu'il accepte de lever comme part de mystère à son arrivée.
Thierry Arnaud nous a rejoint également. Bonsoir Thierry, est-ce qu'on a une idée, alors que vous voyez là les images en direct de l'aéroport de Nouméa, l'avion présidentiel qui vient de se poser à l'aéroport, est-ce qu'on a une idée du programme d'Emmanuel Macron là dans les prochaines heures?
Alors, pas encore de manière très précise. On sait qu'il doit se rendre évidemment à Nouméa, au commissariat vraisemblablement, pour y tenir de premières réunions. Et d'ailleurs, on aura une première indication de la tension qui règne toujours sur place, puisque pour aller de cet aéroport de la Tontouta au centre de Nouméa, il y a à peu près 60 kilomètres, une route qui est évidemment un axe stratégique, évidemment qui a été pris pour cible par les émeutiers. Et donc, s'il utilise des moyens aériens, par exemple, ça nous confirmera dans l'idée que cette route, elle est toujours, sinon impraticable, au moins risquée pour lui, bien sûr. Ensuite, il y aura un enchaînement de réunions. Ce que l'on sait de ce qui s'est passé ces dernières heures, et singulièrement dans l'avion, ce sont des informations qui nous ont été communiquées par Léopold Daudebert, notre envoyé spécial qui accompagne le président dans l'avion, c'est qu'il y a eu un rythme assez frénétique de réunions autour du président de la République, les conseillers entre eux, les conseillers avec le président. Au moment où il y a eu cette escale à Vancouver, on a continué à discuter autour d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin et de Sébastien Lecornu, les deux ministres qui l'accompagnent, précisément pour voir comment on pouvait optimiser le temps. Il a véritablement, Julie, une obligation de résultat, le président de la République. Il ne prétend pas pouvoir résoudre cette crise, évidemment, totalement en l'espace de quelques heures, mais il ne peut pas quitter la terre néo-calédonienne sans avoir au moins tracé un parcours, une voie de sortie de la crise.
Il y est déjà allé en Nouvelle-Calédonie, Amandine Atalaya, c'était en juillet dernier. Certains disent, bon, ben voilà, ça ne servira à rien. Comme en juillet dernier, l'Élysée dit non, il y aura bien des annonces. Il ne fait pas 30 000 km pour rien.
La crise est telle qu'il s'agit de la résoudre, parce que ce qui s'est passé ne s'était pas passé dans ces proportions depuis très longtemps quand même en Nouvelle-Calédonie. Après, tout le monde dit aussi que depuis le départ d'Édouard Philippe, qui a cessé de s'occuper de ce dossier en 2020, les premiers ministres d'Emmanuel Macron ensuite, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, se sont beaucoup moins intéressés à ce dossier. Soit parce qu'ils n'en ont pas le goût, soit parce qu'ils le connaissaient moins et que ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Et Emmanuel Macron lui-même n'a pas saisi certainement à quel point la situation s'était détériorée. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, dans une interview hier, lui rappelle.
Lui met un petit coup de pression.
C'est ça, il va être beaucoup plus difficile maintenant de régler la situation qu'il y a trois mois. Et puis, il est même inquiet sur un plus long terme, Édouard Philippe, parce qu'il dit, par ailleurs, les Kanaks auront toujours un goût de l'indépendance, il va falloir réfléchir sur du très long terme. Il y a d'ailleurs certains responsables politiques comme Marine Le Pen qui disent qu'il faut encore refaire un référendum sur l'indépendance dans 40 ans.
Oui, elle, c'est dans 40 ans.
Oui, alors Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur tout, sur ce dossier. On ne peut pas faire plus différent de ce qu'on disait avant et de ce qu'on dit aujourd'hui. Elle avait toujours dit, les trois référendums, ça clôt la situation, on n'en parle plus, maintenant il en faut un autre. Elle a voté le projet de loi sur le dégel du corps électoral et maintenant elle dit, ah non, non, il ne faut pas l'entériner dans un congrès, on suspend tout. Donc on ne peut pas dire que Marine Le Pen a été très courageuse sur ce dossier. Mais fermons cette parenthèse, mais voilà, Emmanuel Macron maintenant doit au moins donner une réponse un peu urgente sur ce congrès, puisqu'il avait dit fin juin, il faut absolument que ce congrès entérine le projet de loi. Fin juin, c'est dans quelques semaines, donc il est urgent de savoir.
Alors, on voit toujours les images de l'avion.
Ça vient très intéressant parce qu'on a aujourd'hui à la faveur et malheureusement d'une crise, des partis politiques et des politiques qui enfin s'essayent au pragmatisme. C'est une situation qui a toujours été complexe, c'est ce que décrivait très bien Michel Rocard, il avait très très bien, c'est complexe, ça nécessite de l'adaptabilité, de la souplesse, beaucoup de discussions. Les discussions peuvent vous amener sur des terrains que vous n'aviez pas prévus au départ, il faut pouvoir être capable de s'adapter, et c'est vrai que depuis 5 ans, c'était quelque chose qu'on avait un peu oublié, depuis d'ailleurs le résultat de ce dernier référendum dont on a rappelé qu'il avait été organisé dans des conditions qui ont été contestées, mais ce qu'on n'a pas voulu voir en métropole. On s'est dit, finalement, ça y est, l'affaire est pliée, la chose a été votée, c'est fini, on l'enterre, voilà, affaire suivante. Et ça n'était pas du tout la réalité du terrain. Donc là, on le redécouvre avec 5 ans de retard, et il faut réadapter des politiques, évidemment, parce que les politiques qu'on avait pensées pour un après ne sont pas efficientes, et elles ne seront pas assez durablement, vraisemblablement. Donc c'est ce que maintenant Emmanuel Macron va devoir mettre en place. C'est quand même un schéma qui va tenir les 5, 6, 10 ans qui viennent.
Thierry Arnaud, qui a donc dans cet avion ? Il n'est pas seul, Emmanuel Macron, vous l'avez dit.
Oui, c'est important. Il a deux ministres autour de lui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, évidemment la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux. Il y a lancé trois hauts fonctionnaires qui l'accompagnent et qui sont les spécialistes du sujet et dont on nous dit qu'ils resteront à l'issue du voyage du président de la République, parce que il a pris soin, au fond, de ne rien dire, de ne prendre aucun engagement d'aucune sorte avant son départ, de sorte de se laisser les marges de manœuvre les plus importantes possibles. Il ne s'est pas prononcé sur le fond, il ne s'est pas prononcé sur le calendrier, sur est-ce que c'est report, retrait, dans quelles conditions, etc. Il ne s'est pas du tout prononcé non plus, de quelque manière que ce soit, il n'a pas donné d'indication sur ce que pourrait être cette mission qui sera nommée à l'occasion de son voyage. Avec qui ? Pourquoi faire ? Avec quelle feuille de route ? Précisément parce que il arrive et on attend beaucoup de lui, mais on attend aussi qu'il écoute et qu'il dialogue. Et donc, il y a une certaine forme de logique à ne pas faire d'annonce avant d'être arrivé sur place et à ne pas avoir dialogué. C'est la raison pour laquelle je pense que s'il s'exprime une fois qu'il aura descendu les marches de la passerelle dans quelques minutes, ce sera pour poser très globalement le cadre de ce voyage.
Mais non pas pour faire des annonces concrètes.
Des annonces concrètes, évidemment, parce que les annonces concrètes, si on respecte la logique des choses et la logique de ce déplacement, les annonces, elles ne peuvent venir qu'à l'issue de conversations, d'échanges qui auront fixé le cadre de
la seule annonce concrète qu'il peut faire, c'est le report de la réunion du Congrès, le report de cette réforme du corps électoral. Pour le reste, il n'a rien à annoncer, en fait. Il n'aura rien à annoncer lors de ce déplacement. Sinon, installer ce comité du dialogue qui lui fera des annonces peut-être plus tard. Mais le reste sera cosmétique, ce sera du théâtre. Ce sera du théâtre.
Oui.
D'important, il n'y a rien à...
Alors, Thierry Arnaud, pas tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas complètement d'accord. Il y a quand même des choses qui peuvent annoncer. Ne serait-ce, Géraldine, que sur le front économique, par exemple. Il y a eu des dégâts économiques considérables.
Dans le court terme, oui.
Il y a plusieurs centaines de millions d'euros de reconstruction à financer. Ouais. Il y avait également un plan nickel que l'État a essayé de mettre en place qui n'a pas du tout été bien reçu, même si l'État avait mis 200 millions d'euros sur la table. Et donc, voilà, je pense que le rôle du carnet de chèques dans la capacité à apaiser dans les jours qui viennent n'est pas totalement à négliger non plus.
Il pourrait sortir le carnet de chèques.
Pardon ?
Il peut sortir le carnet de chèques,
Je pense qu'il va devoir apporter des réponses. Encore une fois, le PIB de la Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Si vous avez 1 milliard d'euros de dégâts sur une économie qui génère 10 milliards par an, je vous laisse imaginer ce que ça représente en proportion. C'est absolument considérable. Il y a un circuit de distribution qui ne fonctionne plus, des magasins qui ne sont plus en état de distribuer, des pharmacies qui ont été détruites. Il y a un sujet sur les approvisionnements des hôpitaux. Bref, il y a tout un tas
C'est important
Il y a tout un tas de questions concrètes, ne serait-ce que pour remettre en route les choses, que ça fonctionne et que la vie quotidienne redevienne entre guillemets normale, indépendamment de l'accord politique et des projections à moyen et long terme. Et sur ces sujets très concrets de la vie quotidienne, évidemment qu'il est attendu aussi.
Sur un bilan, d'ailleurs, je donne la parole dans un instant à Pablo, alors qu'on voit toujours ces images de l'aéroport de Nouméa
Peut-être qu'il ne va pas vouloir sortir de l'avion.
L'avion d'Emmanuel Macron qui vient de se poser. Peut-être prendra-t-il la parole, mais il y a peu de chances qu'il fasse des annonces tout de suite. Comme le disait Thierry Arnaud sur le plateau, il va attendre de dialoguer avec les différents acteurs politiques, économiques sur place avant de faire des annonces. Peut-être décidera-t-il donc de reporter cette réforme concernant le dégel du corps électoral. Tout ça dans un contexte, vous le disiez, très tendu. Est-ce qu'on a d'ailleurs une idée, Guillaume Fard, pardon, est-ce qu'on a une idée du bilan des dégâts? Est-ce qu'on peut l'évaluer à l'heure qu'il est ou pas encore?
Le bilan chiffré, il faudra qu'il soit consolidé, mais les sommes qui viennent d'être évoquées à l'instant par Thierry Arnaud sont considérables et correspondent à l'ampleur des dégradations. Vous avez eu des pillages de l'ensemble des commerces de grande distribution, vous avez des entreprises qui ont été incendiées et certaines ne s'en relèveront pas. Vous avez des sites d'extraction minière et notamment de nickel qui sont menacés ou pour certains partiellement détruits. Vous avez un nombre de bâtiments publics qui ont été dégradés et dans certains cas qui sont absolument inutilisables et qui ne pourront pas reprendre, sans compter l'état du système de santé. Donc en quelques jours, l'île a été ravagée. Ça a un coût de le reconstruire et ça nécessitera de toute évidence des dépenses d'argent public. Voilà, il y a une solidarité nationale parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Et ça, il faut aussi l'établir. Et sans doute que ça pèsera dans le dialogue que le chef de l'État pourra avoir avec les parties prenantes sur l'île. Sur le plan de la sécurité, il y a aussi un coût. Il y a le coût humain d'abord des forces de l'ordre engagées. On a perdu 2 gendarmes et certains nombres ont été blessés. Et puis ensuite, il y a un coût sur l'effort que représente l'envoi de fonctionnaires et de militaires supplémentaires. Ça coûte cher d'abord de les dépêcher sur place, et ça coûte cher de les maintenir sur place. Et puis la question de la durée de leur maintien va se poser dans le cadre des discussions, avec des échéances très très proches. Que se passera-t-il au bout des 12 jours de l'état d'urgence? Est-ce qu'il est prolongé? Est-ce qu'il s'arrête?
Pour l'instant, il doit aller jusqu'au 27 mai.
C'est donc 12, lundi, c'est 12 jours après avoir été décrété. Bon, ça c'est conforme à la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Puis après, est-ce qu'on prolonge? Si on prolonge, ça veut dire qu'on donne des moyens de police administrative exorbitants de droit commun localement aux autorités. Mais ça n'a aucun intérêt si vous n'avez pas les femmes et les hommes pour le mettre en œuvre. Donc il faut maintenir les renforts. Pendant combien de temps encore? On a des échéances en métropole qui vont nécessiter la présence de forces de sécurité. Le 6 juin prochain, c'est dans quelques jours, il y a les commémorations des 80 ans du débarquement de Normandie, avec la présence de Joe Biden, avec la présence du roi Charles, avec un représentant de la Russie. Bon, bref, c'est un événement qui nécessite une présence de forces de l'ordre significative. Le relais de la flamme est actuellement a démarré depuis le 8 mai. Et le 26 juillet, on aura la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et avant ça, le 14 juillet, on aura notre fête nationale, peut-être une finale de l'Euro, si l'équipe de France a un parcours qui lui est favorable. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont nécessiter que l'on sollicite les forces de l'ordre. On ne pourra pas maintenir des renforts indéfiniment. Alors, le scénario du pire serait qu'il faille des renforts aux renforts. Et là, vous commencez à être en tension.
Pour l'instant, vous le disiez, vous rappeliez ce chiffre, 1131 policiers et gendarmes en renfort dans l'archipel. Amandine Atalaya, on voit donc toujours cet avion qui vient de se poser, Emmanuel Macron qui doit sortir de l'avion, hein, logiquement, dans les toutes prochaines minutes. Il est accompagné des ministres Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, de Marie Guévenoux, ministre de l'Outre-mer. Sur le signal qu'il veut envoyer là, on le disait, il passera 24 heures sur place tout au plus, mais le signal, le message envoyé derrière, il est important.
Oui, et c'est délicat, parce que c'est à la fois une ouverture au dialogue et en même temps une forme de fermeté, parce qu'il y a quand même eu des émeutes et qu'il y a aussi une partie du pays qui attend d'Emmanuel Macron qui soit celui qui rétablisse l'ordre avec des mots fermes. Donc c'est ce partage difficile entre trouver les mots justes sans braquer pour que cette mission puisse faire ensuite son travail et en même temps voilà, clore un chapitre très douloureux et une crise où il y a eu 6 morts. À un moment donné, un État français qui a été dépassé au début, avec des habitants qui se sont défendus seuls, dans des conditions d'ailleurs parfois très contestables, puisque certains ont tiré certainement dans la panique et ont tué plusieurs Kanaks. Des gendarmes, on le disait tout à l'heure, 2 gendarmes sont morts. Et aujourd'hui, la droite française, par exemple, réclame à tout prix à Emmanuel Macron qu'il ne cède pas face à la violence. Donc voilà, il doit trouver cette ligne de crête aujourd'hui. Après, il sait très bien à quel point il est attendu là-dessus. Donc, il ne peut pas faire des erreurs qu'il fait parfois de manque d'humilité ou d'arriver sur certains territoires en voulant jouer la franchise à tout prix et en se mettant tout le monde à dos. Là, il doit faire exactement l'inverse. Donc, a priori, il sait très bien comment s'y prendre. Et d'ailleurs, il estime que dans des situations de crise, lui pense avoir le talent pour dénouer des situations très tendues, comme il a à tout prix voulu le faire au Salon de l'agriculture, où aucun de ses proches ne voulait qu'il reste, et puis lui est resté face à des gens qui ne voulaient pas de lui ce jour-là au salon, et il a tenu à discuter pendant des heures et des heures. Là encore une fois, la question est qui va accepter de rencontrer Emmanuel Macron, d'où tous les coups de fil qu'il a passés dans l'avion, parce qu'il faut qu'il y ait des leaders qui représentent les habitants, notamment les indépendantistes, qui soient écoutés. Léopold Audebert, qui est dans l'avion, nous disait aussi qu'il est difficile, semble-t-il, d'en faire venir certains pour des raisons de sécurité. Il y a des routes à dégager.
De faire venir des indépendantistes
au contact d'Emmanuel Macron. Oui, parce que c'est difficile pour certains vis-à-vis de leurs troupes, qui n'ont pas forcément envie qu'ils se rendent à ce rendez-vous avec Emmanuel Macron, qu'ils ont jugé auparavant offensant. Donc voilà, beaucoup de défis pour le président dans ce très bref voyage.
Beaucoup de défis et finalement beaucoup, pardon, mais d'air brassé, parce que on a l'habitude depuis typiquement le salon de l'agriculture et bien avant, il a effectivement parlé avec des gens pendant des heures, ça a duré, on a filmé, ça n'a eu aucun impact, aucun type d'effet. Ça lui fait plaisir à lui, ça fait un show télévisé, mais c'est pas là que se nouent les choses importantes. Et au salon de l'agriculture, c'était un moment pour les caméras, mais qui n'a pas entraîné de conséquences politiques. Les conséquences politiques, elles ont lieu ensuite et dans d'autres cadres et dans d'autres scénarios.
Là, pour sa défense, François Mitterrand avait par exemple choisi le même type de voyage. Et à l'époque, il n'était pas accusé de faire un spectacle politique parce qu'il passait quelques heures en Nouvelle-Calédonie.
Non, mais je dis pas ça pour vous, mais on est là à dire avec qui il va parler, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment se feront ensuite les comités de dialogue, avec qui, sur combien de temps, sur quelle modalité.
Et on va voir, effectivement.
C'est ça qui, sur le long terme, sera impactant, et certainement pas les quelques personnes avec lesquelles il parlera une heure, deux heures.
On verra. Il n'a pas encore posé le pied en Nouvelle-Calédonie.
On a un peu tiré.
Essayons d'apprendre de ces expériences-là. Ça fait 7 ans qu'on les a. Essayons d'arrêter de commenter chaque espace médiatique, parce que c'est vrai que ça devient déroutant aussi pour le public. Il y va 12 heures, il va parler avec quelques personnes, c'est effectivement important, mais ça n'est pas du tout fondamental et c'est pas là que se dénouera la crise.
Tout dépend. Est-ce qu'il va reporter cette réforme dont il est supposé passer devant le Congrès fin juin? Ça, c'est un point important jusque-là, Thierry Renaud, et c'est ça qui va être intéressant à analyser. Alors qu'il s'apprête à descendre de l'avion, on sent que tout se met en place depuis l'aéroport de Nouméa. On voit la maire de Nouméa d'ailleurs qui est présente pour l'accueillir au pied de l'avion. Jusque-là, Emmanuel Macron a une posture de fermeté. En gros, c'est « je veux le retour au calme, sinon le texte passera au Congrès fin juin ». Ça sera intéressant de voir d'ailleurs dans quel état d'esprit il est là à sa sortie de l'avion, alors qu'il devrait dire quelques mots a priori.
Oui, et accompagné du haut-commissaire, je pense également, qui est venu l'accueillir très probablement. On ne voit pas très bien dans quel sens. Comment il pourrait maintenir cette réforme et son calendrier. Donc la question qui lui est posée, c'est de savoir comment en sortir sans donner l'impression d'un recul, d'un abandon, sans perdre la face en quelque sorte, parce que le maintien à ce stade serait considéré par tous ceux qui sont à l'origine de ce mouvement comme une provocation, compte tenu de la nature très serrée du calendrier que l'on évoque, puisqu'il faut effectivement que ce congrès se réunisse avant la fin du mois de juin pour que la loi prenne effet à partir du tout début du mois de juillet. Donc la question, c'est comment en sortir. Et c'est ça qui doit être au cœur, évidemment, des conversations qu'il va avoir avec quand même un autre sujet qui est très important. C'est-à-dire que effectivement, qui sera autour de la table, c'est quand même pas totalement négligeable. Et ensuite, un deuxième sujet qui a bien été illustré par les propos qu'on a entendus de tous ceux qui sont sur les barrages aujourd'hui, y compris ces dernières heures sur cette antenne, c'est la capacité de ceux qui iront dialoguer avec le président de la République à se faire entendre par ceux qui sont sur les barrages aujourd'hui. Et on voit bien que une des difficultés, c'est que les responsables indépendantistes, les responsables coutumiers, ils ont de plus en plus de difficultés à tenir, si je puis m'exprimer ainsi, cette jeunesse. Parce qu'au fond, quand on écoute ceux qui ont été les opposants les plus radicaux et à l'origine de ce mouvement aujourd'hui, au fond, ils ont l'impression que leurs aînés ont échoué et qu'ils payent aujourd'hui, politiquement, socialement, économiquement, en raison des conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, l'échec de la génération précédente. Mmh. Et donc, la leçon pour eux, d'une certaine manière, c'est qu'il ne faut pas faire comme les anciens.
Et, à la porte
et pas nécessairement les écouter.
Alors qu'on voit, effectivement, Charles est très attentif.
Ah ouais.
La porte
s'ouvre. J'avais peur qu'elle ne s'ouvre jamais. Je dis, on aurait dû garder les experts aéronautiques. Ils n'arrivaient pas à voir la porte. C'est bon.
La porte, donc, de l'avion présidentiel qui vient de s'ouvrir. Et on va donc, j'imagine, pouvoir commenter ces images. C'est, alors, la caméra bouge un peu, mais c'est bien Emmanuel Macron.
Oui, qui est suivi par ses ministres.
Non, c'est Sébastien Lecornu.
C'est
Sébastien Lecornu.
C'est le ministre.
C'est les ministres en premier.
C'est les ministres en premier. Sébastien Lecornu, Thierry Arnaud, peut-être qu'on peut commenter ensemble, le ministre de la Défense.
Ministre des Armées, qui est là aussi parce qu'il connaît un petit peu le sujet et qu'il est un des conseillers politiques importants. Darmanin,
voilà pour le dialogue
et la ministre
Guenvou.
Oui, mais
le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur.
Alors, ce ministre armé, il faut quand même préciser.
C'est pas la ministre des Affaires Sociales, c'est pas la ministre de l'Éducation nationale, c'est pas le ministre.
Alors attendez, commentons les images peut-être un peu là.
Il faut quand même préciser qu'il y a 1650 militaires également présents en Nouvelle-Calédonie qui constituent ce qu'on appelle les forces armées de Nouvelle-Calédonie et qui ont eu un rôle important, non pas de maintien de l'ordre, mais de sécurisation des infrastructures, dont l'aéroport de La Tontouta sur lequel vient de se poser le président de la République, l'autre aéroport, celui de Magenta, et le port autonome de Nouméa également, qui sont les trois infrastructures critiques qui permettent à cette île, et singulièrement celle sur laquelle se trouve le président, la Grande Terre, qui est une bande de 400 km de long et de 60 km de large, de continuer à préserver ces infrastructures critiques.
Donc, ça, c'est le conseiller com du président.
Les ministres.
Il
donc,
a fait un effort, il a mis un coup
qui viennent de
s'exprimer.
Il va donc s'exprimer.
Deuxième
on voit les micros
fondamentale.
En place. Information, évidemment, fondamentale qu'on on écoutera Emmanuel Macron dans quelques instants. On a pu apercevoir et on voit d'ailleurs en arrière-plan les trois ministres discuter, notamment avec la maire de Nouméa, Thierry Arnaud, j'imagine, attend beaucoup de la venue du président.
Oui, les premiers mots sont évidemment très importants parce qu'ils vont fixer le cadre de ce voyage. Ils vont nous dire dans quel état d'esprit le président de la République aborde ce séjour qui est évidemment un séjour à haut risque aujourd'hui et quelles sont ses ambitions dans les heures qui vont suivre. Peut-être nous dira-t-il un mot de son programme également de cette journée. Mais évidemment, compte tenu des événements absolument dramatiques des derniers jours, chaque mot va compter. Les premiers mots seront très importants.
Les premiers mots qu'on suivra, évidemment, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête donc à descendre de cet avion présidentiel pour une visite de 24 heures. Le risque aussi, Amandine Atalaya, pour Emmanuel Macron, c'est que certains chefs indépendantistes boycottent cette visite, comme ils l'avaient déjà fait en juillet dernier.
Alors Géraldine, vous direz que non, puisqu'elle trouve que c'est pas du tout important qu'il vient ou pas à ces rendez-vous. Mais oui, ce serait mal perçu, bien évidemment, si les grands leaders ne venait pas sur les quelques heures où Emmanuel Macron est présent. Gérald Darmanin, par ailleurs, qu'on vient de voir, c'est intéressant aussi parce que jusque-là, c'est lui qui était extrêmement investi sur ce dossier. Et puis, on voit qu'Emmanuel Macron, comme très souvent, a décidé de reprendre la main parce que la situation avait dégénéré et qu'en l'occurrence, Gabriel Attal n'était pas vraiment capable de s'en occuper lui-même parce qu'il n'a pas d'expérience particulière sur ce dossier, même si Gabriel Attal va se rendre aussi en Nouvelle-Calédonie après les élections institutions européennes pour essayer de faire un premier bilan d'étape en espérant que ça ait avancé d'ici là.
La tradition veut que sur le dossier de l'outre-mer, ce soit le Premier ministre.
Oui, la tradition veut que ce soit le Premier ministre, mais après, ça dépend de l'intérêt ou de l'expérience du Premier ministre en question. Mmh. Et puis là, de toute façon, on voit bien que c'est Emmanuel Macron qui a décidé que c'était lui qui pouvait être le seul à se tirer de ce mauvais pas dans lequel il s'est mis lui-même, cela dit, selon beaucoup d'interlocuteurs qui reprochent à Emmanuel Macron d'avoir un peu sous-estimé les revendications des indépendantistes, de s'y être mal pris sur le troisième référendum où beaucoup ont été choqués. Alors là, ça va certainement être le président.
Alors c'est toujours pas lui.
Si,
c'est un membre de l'équipage.
Regardez, il est très chic celui qui sort du truc. Donc ça, c'est le staff présidentiel. Cette
porte donc qui vient de s'ouvrir.
Regardez ça.
Et on va apercevoir.
Derrière ça, il n'y a pas le président.
Dans quelques instants, on va pouvoir apercevoir Emmanuel Macron qui notamment.
Il reste quelque chose
de la
France. Sortira
de l'avion après.
Que le pays était foutu, mais
après les trois ministres. Et on le voit là, le président de la République qui descend donc les marches et qui va donc entamer sa visite de 24 heures. Ça fait rire, Pablo. Je ne sais pas pourquoi.
C'est Thierry Arnaud, le président.
Thierry Arnaud, Emmanuel Macron donc, qui revient en Nouvelle-Calédonie pour la première fois depuis le mois de juillet dernier. On ne peut pas parler d'un succès il y a une petite année et qui espère apaiser la situation ces prochaines heures.
Un voyage à haut risque pour le président de la République, on l'a dit, mais on peut le répéter parce que c'est véritablement le cas. Un déplacement d'une nature très inhabituelle, parce que voir arriver quelque part, y compris et en particulier sur un territoire français, le président de la République, le chef de l'État, sans savoir véritablement quel est son programme, qui il va rencontrer, combien de temps il va rester, qu'est-ce qu'il aura au fond réellement accompli à l'issue de ce séjour. Tout ça, c'est quelque chose qui tranche évidemment de manière assez spectaculaire avec ce que l'on a l'habitude de voir lorsque le président de la République se déplace pour aller à l'autre bout du monde sur un territoire français.
Alors, qui est la personne qu'il salue là ?
Est-ce que c'est pas le fameux haut commissaire ?
Alors, la caméra est un peu éloignée.
C'est la maire de Nouméa, en tout cas.
C'est la maire de Nouméa. La logique voudrait que ce soit effectivement le haut commissaire que le président de la République vient de saluer, en effet.
La maire de Nouméa qui demande par ailleurs, qui est un soutien d'Emmanuel Macron et qui demande un report du congrès, qui dit qu'il faut maintenant pacifier, apaiser la situation et qui ne s'est pas gêné pour le dire tout haut. Et le haut commissaire, lui, était extrêmement inquiet au début à parler d'un risque de guerre civile et d'une situation qui échappait totalement au gouvernement. Donc ce sont deux personnalités qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui disent ce qu'ils pensent.
Et d'ailleurs, dans le camp de la majorité, ils sont nombreux à demander un report de cette réforme. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a dit ouvertement.
Oui, tout à fait. Ils ne sont pas godillots cette fois à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement partagés et qu'il y a beaucoup de membres de la majorité qui pensent qu'il faut reporter le congrès, notamment les proches d'Édouard Philippe. Et Emmanuel Macron va nous en dire plus.
Alors. Voilà pour ces premiers mots d'Emmanuel Macron à son arrivée à l'aéroport de Nouméa. Il va donc se rendre au commissariat. Il va écouter, c'est ce que dit le président.
C'est quand même un ton assez sévère d'Emmanuel Macron, qui en tout cas met en avant, enfin il l'a dit très clairement, priorité numéro 1,
la
retour
sécurité.
Au calme et sécurité. Il n'a pas dit priorité numéro 1, les questions politiques et le dialogue, c'est la numéro 3, les questions politiques, et la numéro 2, l'économie. Donc c'est quand même un président qui arrive avec une forme de vigueur, de détermination et qui... D'ailleurs, un peu comme il avait fait au salon de l'agriculture, n'entend pas non plus s'en laisser compter trop. C'est un peu le message qu'il veut faire passer, semble-t-il, en arrivant, montrer qu'il a un peu de poigne et qu'il s'agit d'abord, il s'en tient à ce qu'il disait jusque-là, de mettre en place un retour au calme pour pouvoir ensuite faire des annonces à l'issue de ces quelques heures.
C'est la stratégie de l'ultimatum d'Emmanuel Macron, c'est de dire « je veux un retour au calme, sinon mon texte ira bien au Congrès fin juin ».
Je ne crois pas que ce soit du tout un ultimatum. D'abord, c'est effectivement intéressant qu'il ait choisi de commencer par le retour à la normalité de la vie quotidienne. dont on se parlait il y a quelques minutes. C'est le premier sujet qu'il a abordé en parlant de paix, de calme et de sécurité, mais aussitôt pour évoquer la capacité à trouver de l'alimentation, la capacité à se soigner pour ceux qui en ont besoin, bref, les priorités de la vie quotidienne. Ensuite, comme on se le disait tout à l'heure, il a choisi de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire pas d'annonce en descendant de l'avion, l'annonce d'une intention de dialoguer, et à l'issue de ce dialogue, effectivement, mettre sur la table un certain nombre de propositions. Et puis, dans la toute fin, une petite information qui est quand même intéressante, quand on interroge le président sur la brièveté de sa présence sur place, il dit qu'il n'a pas mis de limite. Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure, si les conversations sont longues, un peu compliquées, et il y a évidemment plein de raisons de penser que c'est une possibilité sérieuse, on ne peut pas exclure l'hypothèse
qu'il reste plus longtemps,
qu'il choisisse, alors il ne va pas rester une semaine, mais qu'il choisisse de passer quelques heures supplémentaires sur place pour aller au bout de cette discussion, parce qu'il l'a dit, il est là pour écouter, a-t-il dit également deux mots importants qu'il a employés, humilité et respect. Donc si on veut écouter avec humilité et respect, ça veut dire qu'il ne faut pas bâcler la conversation. Ça veut dire qu'il faut se donner le temps précisément de cette écoute, permettre à tous ceux qui l'auront en face de lui de dire tout ce qu'ils ont à dire. Et à la lumière de ce qu'on a vécu ces derniers jours, on imagine évidemment qu'ils auront beaucoup de choses à dire.
Le danger, Amandine Atalaya, je vous donne le micro dans un instant, le danger, Amandine, c'est qu'il n'apporte une réponse purement sécuritaire. Ce qu'il a fait ces 10 premiers jours, la réponse n'a été que sécuritaire.
Oui, mais là, il se s'est attendu sur beaucoup d'autres thèmes. C'est ce qu'on disait, il essaie de jouer sur les deux tableaux à la fois, la sécurité parce que c'est nécessaire et qu'on est en plus dans un contexte en ce moment où il y a beaucoup de Français avant les élections européennes qui reprochent à Emmanuel Macron d'être trop laxiste de façon générale, avec trop de drames qui arriveraient en France, un pays qui ne serait plus tenu en quelque sorte. Donc il a besoin là-dessus de montrer sa fermeté. Il a bien dit quand même à la fin, il y aura des annonces. Donc a priori, c'est qu'Emmanuel Macron compte aller assez vite et en dire plus sur la façon dont le dialogue doit se passer. Et il est évident qu'il va donner une réponse sur le Congrès dans ces 24 heures. Mais il ne pouvait pas le dire en descendant de l'avion. Sinon, à quoi bon discuter, rencontrer les uns et les autres? Personne ne serait venu ensuite à sa rencontre.
Géraldine Wessner.
Non, moi, je pense qu'effectivement, c'est impératif qu'il marque ce besoin de rétablir l'ordre. Et d'ailleurs, tout le monde l'attend là-dessus. Et même en Nouvelle-Calédonie, personne ne comprendrait qu'il ne mette pas cet accent-là. Il incarne cette autorité et il faut qu'il l'imprime dès son arrivée. Maintenant, sur les discussions, moi, j'ai plutôt le sentiment d'un Emmanuel Macron qui est un petit peu dans... Il ne sait pas trop où il va lui-même. Comme on l'avait vu au moment du salon de l'agriculture, il était arrivé en disant « je veux parler ». En face de lui, personne n'était là pour parler, personne ne voulait, il était tout seul. Donc, on était allé chercher des gens pour faire un peu le théâtre devant les caméras, mais dans la réalité, il ne s'était rien passé en vrai au salon de l'agriculture. Donc là, est-ce qu'on aura la même chose? Est-ce qu'ils sont encore dans cette phase où effectivement c'était assez improvisé? Il a dû passer des coups de fil à l'escale. Qui va-t-il rencontrer? Avec qui va-t-il parler? Est-ce qu'il le sait lui-même, là, au moment où il nous parle? J'ai un doute, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est plus important que ce show dans les 12 heures qui viennent, c'est le comité de dialogue qui va mettre en place et qui mettra vraiment un dialogue profond, réel, sincère et à long terme en place. C'est ça, je pense, qui sera le plus important à l'issue de cette rencontre.
Pablo.
Moi, je tenais d'abord à rappeler que pour son déplacement, Emmanuel Macron est accompagné de trois ministres. La ministre des Outre-mer, ce qui semble assez logique puisqu'il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi donc le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées. Donc le signal qui est donné, c'est que c'est la question de l'ordre plus que de la paix civile qui est l'objet de ce voyage, ce qui est un problème. Et tout à l'heure, Brigitte Girardin sur ce plateau l'a très bien exprimé. Elle a fait une liste en fait de tout coup un manque de confiance envers l'État. C'était dans les accords de Nouméa, cette neutralité, cette impartialité que devait avoir l'État vis-à-vis en gros des deux grands courants, le courant loyaliste et le courant indépendantiste kanak. Et l'État est sorti de cette réserve d'impartialité avec la nomination de Sonia Backès un poste de ministre, qui est une loyaliste. Hein. J'ai rien contre Sonia Backès, mais c'est vrai que le signal qui est donné n'est pas
évident. Oui,
pas
mais évident. Alors au moins, on a nommé quelqu'un qui venait de là-bas.
Pablo a raison, ça a été très mal perçu.
Non, mais attends, il vient avec trois ministres. Il aurait fallu qu'il amène tout le gouvernement. Il nomme une...
Non, il pourrait amener la ministre des Affaires sociales.
Une représentante de la Nouvelle-Calédonie. On critique parce qu'elle appartient pas au bon
mais
camp.
C'est pas nous.
S'il y avait aucun membre du gouvernement venant de Nouvelle-Calédonie, on aurait dit ah voilà, il y a personne. En fait, vous en foutez de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je trouve qu'il faut pas non plus rentrer dans la logique des émeutiers. Je veux dire, il y a quand même des émeutes. C'est un bordel considérable.
Oh, la caricature.
Mais c'est vrai, ça coûte des fortunes.
Oui, mais justement, l'objectif c'est de rétablir la paix civile. C'est de rétablir la paix civile. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure l'ancienne ministre Brigitte Girardin, elle a dit il ne faut pas réfléchir de façon sectorielle, juste les questions économiques, et après juste les questions politiques, et puis après juste les questions sécuritaires ou dans un ordre différent. Il faut prendre tout ça d'un coup, parce qu'en vérité, et ça n'a pas été dit sur ce plateau depuis tout à l'heure, mais les demandes aujourd'hui qui sont faites par les différents habitants et habitantes de Nouvelle-Calédonie, c'est de réfléchir en fait au rapport qu'ils entretiennent avec la France et avec l'État français. Et c'est là qu'il faut de la souplesse et c'est là que ça va être compliqué. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle propose un cadre qui est unique et qui est rigide et dans lequel vous avez différents territoires d'outre-mer qui ne se reconnaissent pas. Et ils veulent réenvisager en fait ce rapport à la métropole. Aujourd'hui, on va voir...
La métropole qui envoie beaucoup d'argent quand même.
Non mais...
C'est vrai. Mais non mais c'est vrai, il faut arrêter avec ça. Mais il y a ça tout le temps, c'est des balades.
Si tu veux, tu peux tout réduire.
On peut indéfiniment réfléchir le rapport à la métropole, la méchante métropole qui oppresse bien sûr l'ensemble des territoires d'outre-mer. Bien sûr, à coût de milliards d'euros, elle est vraiment très très oppressive.
On connaît la rhétorique sur les bénéfices de la colonisation.
Mais c'est sans fin.
Aujourd'hui, vous avez différents peuples d'outre-mer, et c'est pas uniquement en Nouvelle-Calédonie, qui sont dans une demande de décolonisation. Et qu'est-ce que ça veut dire le processus de décolonisation? C'est pas forcément aller vers l'indépendance.
On va retirer les milliards d'euros.
Non mais c'est pas forcément aller. C'est tellement simpliste que tu racontes, mais c'est pas forcément aller vers l'indépendance. C'est juste réfléchir au rapport qu'on entretient avec la métropole. Mais pour ça, d'ailleurs, la Grande-Bretagne, ils ont beaucoup mieux réfléchi à ça. Ils ont des processus de décolonisation.
Si vous le voulez bien,
qui n'a pas de sens.
On va aller retrouver notre envoyé spécial, Clémence Dibou. Vous êtes donc à Nouméa, à l'aéroport de Nouméa. Clémence Emmanuel Macron, qui vient donc tout juste d'arriver pour se rendre au commissariat, c'est bien ça?
Oui, et c'est difficile dans la ville de Nouméa de ne pas savoir qu'il y a quelqu'un de très important qui arrive en ville parce qu'évidemment, la ville, elle est quadrillée par les forces de l'ordre. On a vu plusieurs véhicules blindés ce matin dans des ronds-points stratégiques. Là, tout à l'heure, pour s'arrêter sur le bord de la route, il y a des forces de l'ordre qui sont venues contrôler notre identité pour savoir si on pouvait bien rester sur place. Voilà l'état d'esprit général. Quant au programme d'Emmanuel Macron, c'est silence radio, on n'a pas beaucoup de détails. Pour des raisons de sécurité, parce qu'effectivement, ce que l'on craint ici, c'est que ce qu'on appelle les jeunes perturbateurs, 5000 jeunes perturbateurs, qui pourraient effectivement vouloir défier l'autorité que représente Emmanuel Macron. Il y a encore des barrages actifs. Ce matin encore, il y avait ici et là des feux qu'on pouvait observer. Alors, difficile de vous dire si ce sont vraiment des feux qui auraient été dans la nuit, mais c'est l'état d'esprit général de ce que va pouvoir voir Emmanuel Macron quand il va arriver. Crainte d'un embrasement parce qu'Emmanuel Macron vient sur place, mais également beaucoup d'espoir sur cette visite et des espoirs complètement contradictoires. D'un côté, les loyalistes qui attendent un soutien et la fin de cette crise majeure ici en Nouvelle-Calédonie. De l'autre, les indépendantistes qui, eux, espèrent qu'Emmanuel Macron retire tout simplement ce projet de loi électoral. Les indépendantistes qui expliquent qu'il n'y aura pas de retour à la paix, qu'il n'y aura pas la fin de ce mouvement tant que ce projet ne sera pas tout simplement retiré.
Merci beaucoup Clémence Dibou, avec Dominique Berthaud derrière la caméra. Nous a rejoint sur le plateau Philippe Vigier, merci d'être avec nous, ancien ministre délégué chargé des Outre-mer. Vous avez été ministre donc de juillet 2023 à janvier 2024 et vous y étiez d'ailleurs lors du déplacement du président, c'était en juillet dernier, en juillet 2023. Ça n'avait pas tellement abouti. Ça n'a pas permis d'apaiser la situation. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes optimiste ?
D'abord, il faut rappeler qu'en juillet 2023, il y a eu une discussion avec tous les partenaires. Au commissariat, tous étaient venus, sauf une partie des indépendantistes qui n'étaient pas venus. Et pourtant, ils avaient tous été conviés à un tour de table pour voir comment on allait, après les trois référendums, dans l'esprit des accords de Nouméa, faire en sorte qu'on organise une évolution institutionnelle. Mmh. Après, il y a eu 6 mois qui leur a été donné. Il y a eu une réunion à l'Élysée, d'ailleurs, dont personne ne parle, au mois de décembre dernier, où ils ont tous été reçus. Il y a eu des bilatérales. Tout le monde était présent ensuite sur une multilatérale pour voir comment on sortait de la situation dans laquelle nous étions. Donc, l'aboutissement des accords de Nouméa, les trois référendums organisés entre 2018 et 2021, pour bâtir l'avenir. Le texte est passé au Sénat et c'est après le passage à l'Assemblée qu'on connaît les événements dramatiques que nous vivons. Et moi, j'ai d'abord une pensée très émue pour les Calédoniens et ce qui se passe, où il est grand temps que la sécurité revienne, que l'État de droit revienne.
Six personnes tuées, on rappelle, deux gendarmes.
Et qu'on puisse quand même, pardonnez-moi, je pense aux soignants, je pense à tous ceux qui vivent là-bas, toutes ces dégradations absolument immenses qui ont eu lieu. Il va falloir aussi penser à reconstruire.
Mmh. 24 heures. Effectivement, il l'a rappelé, Emmanuel Macron, il ne se fixe pas de limite. S'il y a besoin de plus, visiblement, il restera un peu plus longtemps. Mais on parle quand même d'un voyage éclair. François Mitterrand, c'était 12 heures en 85. Donc, a priori, c'est un peu plus. Mais ce sera utile, selon
vous ? C'est indispensable. D'ailleurs, pour ceux qui sont extrêmement attentifs, il y en a qui le sont tout autour de la table, vous les êtes tous. Je vous rappelle qu'il y a eu une question des Républicains la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en demandant ce qu'au plus haut niveau, on soit en capacité de reprendre le suivi de ce dossier de la Nouvelle-Calédonie. Le président y est, je crois que c'est un signe très fort. Et déjà, il avait prévu de retarder le congrès. Maintenant, il s'agit de voir avec toutes les parties prenantes, qu'il avait conviées d'ailleurs la semaine dernière dans une vidéo, une visio qui n'a pas eu lieu, parce que comme vous le savez, certains ne voulaient pas être là, savoir si on peut tracer un nouveau chemin pour les 10, 20, 30 et 40 prochaines années. On arrive au terme d'un processus de 30 ans. Les accords de Nouméa, Matignon, ces accords-là, ils ont été suivis d'effets, puisque je rappelle quand même qu'en 30 ans, pratiquement tous les engagements qui ont été pris par l'État ont été tenus. Là, maintenant, il faut tenir compte de la nouvelle situation. Elle est gravissime, c'est-à-dire qu'il faut entendre les uns et les autres, et il doit y avoir un État neutre, un État impartial, qui soit capable d'accompagner à un niveau dispositif une nouvelle perspective. Comment peut-elle s'organiser? Il y a une chose, moi je veux quand même dire très librement que sur l'affaire du corps électoral, c'est pas une surprise, ça n'est pas une découverte. Depuis longtemps, on aurait dû le faire dès 2007.
Le corps électoral qui est gelé depuis 98 pour les élections provinciales.
Et il faut expliquer une chose très simple. Vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, vous êtes parti 15 ans dans l'Hexagone, vous revenez en Nouvelle-Calédonie, et vous ne pouvez pas voter aux élections. Est-ce que vous accepteriez ça sur le territoire français? Non. D'abord, c'est pas une volonté gouvernementale, c'est le Conseil d'État, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a dit « Vous ne pouvez pas rester ainsi ». Il faut aussi entendre le message des indépendantistes qui disent quoi ? Que le troisième référendum qui a été organisé, il a été en post-Covid, où il y a eu un boycott, vous le savez, il n'a pas été organisé entre guillemets dans les conditions les plus normales. Donc, il faut trouver un chemin entre les uns et les autres, parce qu'on ne pourra pas faire les uns contre les autres. Voilà.
Puisqu'on explique donc que depuis tous ceux qui sont arrivés après 1998 ne peuvent pas participer aux élections provinciales.
Pour ceux qui sont arrivés avant 1998, ils peuvent voter. Ceux qui sont arrivés après 1998 ne peuvent pas tous voter. Mais pire, ceux qui peuvent être nés en Nouvelle-Calédonie en 2000, par exemple,
ne peuvent pas voter.
Ils sont venus habiter dans l'Hexagone pendant 20 ans, repartent et ne peuvent pas toujours voter. Donc ça n'est pas acceptable. Qui accepterait dans la moindre commune de France? Il y a des sous-citoyens, c'est une citoyenneté qui n'est pas acceptable.
Mais eux disent sur place, le fait est que ça faisait partie de l'accord de Nouméa en 98.
Mais vous avez tout à fait raison de le dire, mais il était prévu dans l'accord de 88, ça n'a échappé à personne, que dès 2007, on devait dégeler le corps électoral, ça n'a pas été fait. C'est comme les trois référendums n'ont pas été faits sous François Hollande.
Alors, je vous donne la parole dans un instant. Juste avant, on va réécouter Emmanuel Macron qui est donc arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a environ 3/4 d'heure. On écoute le président qui s'est exprimé brièvement à son arrivée à l'aéroport.
Ma volonté ici avec les ministres, l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités. Je veux remercier le haut commissaire, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, les élus. Avec le retour au calme et à la sécurité, c'est évidemment aussi le retour aux soins normaux, à l'approvisionnement et à l'alimentation, car je sais que beaucoup de populations souffrent aujourd'hui d'une situation de grande crise. soit que certains de nos compatriotes soient malades, soit que d'autres aient beaucoup de mal aujourd'hui à s'alimenter. Donc c'est la priorité aujourd'hui de cette visite. Nous aborderons évidemment les questions de reconstruction économique, de soutien, de réponse rapide, et puis les questions politiques les plus délicates pour parler de l'avenir justement de la Nouvelle-Calédonie. Je vais maintenant me rendre au commissariat et écouter l'ensemble des forces institutionnelles, politiques et économiques coutumières. Et à l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites. Je viens ici, moi, avec en tout cas détermination, tout faire pour que nous ayons le retour au calme, avec aussi beaucoup de respect, d'humilité, et dans un contexte aussi que nous connaissons, en ayant une pensée, je le ferai tout à l'heure, commençant la réunion pour les victimes.
Il y aura des annonces, Thierry Arnaud, dit-il, mais avant tout, il veut le retour de l'ordre, il veut le retour de la sécurité.
Des annonces et des décisions, effectivement, à l'issue des discussions qui vont avoir lieu tout au long de la journée, puisqu'il arrive, rappelons-le, en raison du décalage horaire, en début de journée, tôt le matin, en Nouvelle-Calédonie. Mais effectivement, le président de la République a commencé par parler des soucis de la vie quotidienne. Les trois premiers mots-clés qu'il a employés, c'est la paix, le calme, la sécurité, avant effectivement d'évoquer le sort de ceux qui ont beaucoup de mal à se soigner lorsqu'ils en ont besoin ou à se nourrir, ce qui est le cas évidemment, ce qui a été le cas ces derniers jours de beaucoup de monde en Nouvelle-Calédonie, puisque beaucoup de magasins ont été pillés et ceux qui n'avaient pas été pillés ont vu leur rayon évidemment se vider extrêmement rapidement. Donc voilà quelle était l'intention première du président de la République, fixer le cadre globalement de cette visite, mais vous aurez remarqué, c'est important, qu'il a du coup quand même accordé pas mal de place aux questions économique, qu'il s'agisse des besoins immédiats, qu'il s'agisse de la reconstruction, parce que c'est évidemment aussi une question que beaucoup de Calédoniens se posent, au-delà de la solution politique, qui évidemment sera âprement débattue et qui ne débouchera sans doute pas très rapidement sur des choses extrêmement concrètes. Il y a des choses très concrètes pour la vie quotidienne qui doivent se remettre en place pour les Calédoniens dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et c'est évidemment là-dessus que le président se sait attendu aussi.
Et vous le disiez, il n'est pas impossible qu'il sorte le carnet de chèques pour apaiser aussi la situation.
Parce qu'il y a au minimum plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts. Certains évoquent le chiffre d'un milliard d'euros, qui est évidemment considérable parce que, je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie, c'est un PIB de 10 milliards d'euros à peu près. Donc, voyez en proportion ce que ça peut représenter. Et parce que, avant cette crise, l'économie calédonienne était déjà une économie qui souffrait, notamment en raison de la crise du nickel. On en a beaucoup parlé, mais c'est très important. Alors, il y a une forme de paradoxe parce que le nickel, c'est un métal qui est très recherché et qui a beaucoup de potentiel. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour des raisons essentiellement conjoncturelles, ça va très mal. Les usines de nickel sont quasiment en situation de faillite. Et il faut savoir que le nickel, ça représente à peu près 20 à 25% des emplois en Nouvelle-Calédonie. Donc, quand le nickel va mal, c'est compliqué de dire que la Nouvelle-Calédonie va bien par ailleurs sur le plan économique.
Qu'est-ce qui pourrait apaiser la situation, selon vous? On les a entendus, ces émeutiers, les manifestants, dire « nous, tant qu'ils ne retirent pas cette loi, qu'ils ne la reportent pas, qu'ils ne la rayent pas, on continuera, on restera là, on renforcera les barrages. »
Thierry Arnaud a bien fait de rappeler que le premier message du président, il le fallait. C'était de dire on doit faire en sorte que la vie quotidienne se déroule à nouveau normalement en Nouvelle-Calédonie. Et le fait qu'il soit présent, le fait qu'on ait mis les moyens pour justement faire en sorte, moi j'oublie pas les drames des policiers, des gendarmes qui ont été tués, des civils qui ont été tués, de ces barrages, de ces émeutiers. Donc en fait, il faut passer à une deuxième phase. La reconstruction, on l'évalue à environ 1 milliard d'euros, avec un élément très important, c'est que depuis 30 ans, je rappelle que la plupart des compétences ont été données à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a plus que les compétences régaliennes qui sont exercées par l'État. Ça veut dire, en clair, ça sera un effort particulier pour un territoire dont on voit qu'il vient d'être dévasté. Alors ensuite, il y a deux chemins. Il n'y a pas 36 solutions. Le premier chemin, c'est est-ce que oui ou non, il va consulter tout le monde. Il y a une capacité, même s'il y avait naturellement le Congrès qui se prononce pour avaliser la réforme du corps électoral, mais je rappelle que cette réforme, elle a un article 2, mais il n'y a pas grand monde qui l'a lu. Dans cet article 2, il est précisé quoi? Il est précisé que, dans le cadre d'un accord global politique, notamment avec de nouvelles compétences, de nouvelles décentralisations vers la Nouvelle-Calédonie, qui est dans le territoire ultramarin dans lequel il y a le plus de compétences qui ont été transférées. Jusqu'à 10 jours avant le scrutin, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2025, je dis bien jusqu'en novembre 2025, on peut changer la donne. Sinon, le deuxième chemin, c'est quoi? C'est de dire que pour faire en sorte que l'on puisse à la fois, dans un but de neutralité, écouter les loyalistes, donc ceux qui veulent rester dans la France hexagonale et ultramarine, et les autres qui veulent sortir, on propose à un moment une possibilité d'une autre consultation. Ça peut être un chemin. Mmh. En tout cas, il faut trouver un chemin de neutralité qui permette... avec
une autre consultation, c'est une option pour vous?
C'est une option qui est possible, mais elle doit être validée politiquement parce qu'on ne peut pas repartir. Je voudrais simplement rappeler quelque chose. Au mois de novembre et décembre dernier, chacun savait, dans l'ensemble des partis qui représentent la Calédonie, que l'échéance allait arriver au 1er janvier 2024. Tout le monde le savait depuis 6 mois. On a demandé à tout le monde, dans cette fameuse rencontre de l'Élysée, quelles sont vos propositions d'évolution institutionnelle. Et là-dessus, il n'y a pas eu d'avancée. Pour autant, retrouvons l'esprit de 88, retrouvons cet esprit de neutralité, de reconstruction, comme vous l'avez dit, parce que, pardonnez-moi, qui veut continuer à investir en Nouvelle-Calédonie? Dernier mot sur le nickel. C'est pas, ce sont 20% des emplois, mais 60% du produit intérieur brut de la Calédonie qui est concerné par le nickel. Mais le nickel, on a un autre problème. C'est que le nickel que nous fabriquons là-bas, que nous extractons, eh bien, ce nickel-là, il ne peut pas être utilisé pour les fameuses batteries. Les Chinois l'ont bien compris, ils ne sont pas loin, ils sont en embuscade. Et déjà, ils ont fait des prises de participation dans les usines qui sont là. Et donc, on a des vrais problèmes économiques. Et d'ailleurs, l'État français, depuis de longues années...
C'est pas à cause de la Chine, les programmes économiques.
Mais madame, vous avez raison. Mais il faut mettre plusieurs milliards d'euros et restructurer. Oui. On va dire les choses très clairement. Il y a 3 usines. On sait très bien qu'elles ne sont pas rentables. Comment fait-on? Quel modèle économique demain? Avec un sujet que chacun connaît, c'est que sur le prix du kilo de nickel qui sort, 52% est dû à des coûts énergétiques et sur lesquels d'ailleurs on avait fait des propositions. Et après, il faut la filière de transformation. Et après, il faut écouler le produit. Et les Chinois sont pas très loin, ils ont bien compris pourquoi. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est de récupérer le nickel brut, entre guillemets, tel qu'il est produit, le nickel casserole, on l'appelle ainsi. Ensuite, ils l'emmènent où? En Indonésie. Pourquoi? Parce que la manœuvre est 10 fois moins chère qu'elle ne l'est en territoire ultramarin, mais avec des normes françaises hexagonales. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai sujet économique. Donc, c'est une solution globale et elle ne peut être prise qu'avec l'ensemble des parties. Et je voudrais dire quand même que, dernier mot, que cet appel au calme qui a été lancé par les indépendantistes est un appel au calme qui mérite d'être souligné. Les uns et les autres savent que l'affrontement terrible ne mène nulle part, il ne mène que dans une impasse.
Je crois que vous aviez une information.
Oui, je voulais juste rappeler deux petites choses qui me semblent importantes parce qu'on parle depuis le début d'un sujet compliqué. Le changement du corps électoral pour des élections qui sont, en l'occurrence, pas toutes les élections. Et je pense que c'est ça qui est important de rappeler, ce sont les élections provinciales. Et les élections provinciales sont les élections qui permettent d'élire les chambres des différentes régions et le congrès qui est l'assemblée de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc, premier point, ce ne sont pas toutes les élections. Et si vous votez aux élections municipales, par exemple à Nouméa, si vous votez pour élire le maire de Nouméa, le corps électoral, il est déjà sensiblement élargi. Et le deuxième point que je voulais souligner aussi, c'est que même avec les règles actuelles, aujourd'hui, la majorité, alors c'est une majorité relative, mais la majorité relative du congrès de la Nouvelle-Calédonie, elle est indépendantiste.
Absolument.
Ce qui est à souligner aussi et qui est un grand changement depuis qu'avait été gelé ce corps électoral, c'est que quand bien même la population a énormément évolué et que là on se cristallise, on se crispe un peu dans le débat français entre les occidentaux et les Kanaks, faut savoir que 35% de la population n'est ni occidentale ni Kanak. Ce sont des gens qui viennent du Vietnam, de Chine, des Wallisiens, des Futuniens, enfin la mixité a beaucoup fonctionné. Il y a eu énormément de mariages mixtes. Il y a des gens maintenant qui se définissent comme calédoniens, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc ça émerge. Et c'est aussi tous ces nouveaux changements qu'il faut accompagner sans brusquer, mais il faut aussi les prendre en compte et essayer de les accompagner. Ça n'existait pas, ça, il y a 20 ans.
On écoute peut-être un nouveau Emmanuel Macron à sa descente de l'avion en Nouvelle-Calédonie.
Ma volonté ici, avec les ministres, l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités. Je veux remercier le haut-commissaire, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, les élus. Avec le retour au calme et à la sécurité, c'est évidemment aussi le retour aux soins normaux, à l'approvisionnement et à l'alimentation, car je sais que beaucoup de populations souffrent aujourd'hui d'une situation de grande crise. Soit que certains de nos compatriotes soient malades, soit que d'autres aient beaucoup de mal aujourd'hui à s'alimenter. Donc c'est la priorité aujourd'hui de cette visite. Nous aborderons évidemment les questions de reconstruction économique, de soutien, de réponse rapide, et puis les questions politiques les plus délicates pour parler de l'avenir justement de la Nouvelle-Calédonie. Je vais maintenant me rendre au commissariat et écouter l'ensemble des forces institutionnelles, politiques, économiques, coutumières. Et à l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites. Je viens ici, moi, avec, en tout cas, détermination, tout faire pour que nous ayons le retour au calme, avec aussi beaucoup de respect, d'humilité, et dans un contexte aussi que nous connaissons, en ayant une pensée, je le ferai tout à l'heure, commençant la réunion, pour les victimes.
Voilà, le retour à la paix, au calme, à la sécurité, les priorités d'Emmanuel Macron pour ce voyage de 24 heures environ en Nouvelle-Calédonie. Guillaume Fard, c'est un voyage risqué d'ailleurs sur le plan de la sécurité pour le président ?
Oui, enfin, disons qu'il y a une situation qui n'est pas stabilisée sur le plan de l'ordre public. Donc après, le risque, en particulier le risque spécifique, c'est le trouble à l'ordre public, c'est éventuellement l'émeute, la manifestation un peu dure en marge de ces déplacements, si toutefois il en envisage. Mais c'est pas plus que cela. Après, il a évidemment des mesures de sécurité particulières attachées à sa fonction, mais il y a suffisamment d'effectifs sur place pour assurer cela. Et puis, il n'est pas prévu, sauf à ce qu'il change d'avis, qu'il reste des jours et des jours.
Mais il ne se déplacera, c'est ce que vous soulignez, Thierry Arnaud. Ce sera intéressant de voir s'il prend la route principale pour se déplacer.
Oui, parce qu'il y a un des sujets qui, évidemment, est posé s'agissant de la sécurité, c'est qu'on a une infrastructure routière, notamment, qui n'est pas, évidemment, comparable à celle qu'on peut avoir dans la métropole. Donc, typiquement, là, il vient de se poser sur l'aéroport de la Tontouta, qui est à peu près à 50-60 km du centre de Nouméa. Et il y a une route qui est la route numéro 1 qui conduit de l'aéroport à Nouméa, et par conséquent il n'y a pas vraiment le choix de s'il choisit d'emprunter la route du parcours. Et évidemment, ça c'est aussi connu de ceux qui sont intéressés par l'idée d'aller mettre des barrages sur le parcours du président de la République. Donc on verra dans les prochaines minutes, on sera sans doute en mesure de confirmer quel est le moyen de transport qu'il a choisi pour aller pour se rendre au commissariat. Et en tout cas, ce qu'on peut aussi relever, c'est que sur le parcours, bien sûr, il aura déjà, que le parcours soit sur la route ou par la voie des airs, une première appréhension très concrète de l'ampleur des dégâts, parce qu'il va pouvoir voir les épaves, il va pouvoir voir tout ce qui a brûlé dans la région de Doumbéa en particulier, qui sera sur le parcours et qui a été un des points chauds des derniers jours. Donc, il va pouvoir mesurer, en le voyant, l'ampleur évidemment considérable des dégâts.
Et il y a un élément qui montre à quel point la situation n'est pas encore stabilisée, c'est que l'aéroport international restera fermé aux vols commerciaux jusqu'à ce week-end, jusqu'à samedi, c'est bien ça ?
Oui, il n'est pas en mesure de réouvrir, mais il y a toute une série de services essentiels, de services publics essentiels, qui ne sont pas rétablis. Des écoles ont brûlé, il y a la question de l'hôpital, des hôpitaux, on en a beaucoup parlé, même de l'accès, de l'accès aux soins, de l'approvisionnement en médicaments, de la capacité à s'approvisionner en denrées alimentaires essentielles, puisqu'un certain nombre de commerces, notamment de la grande distribution, ont été pillés. Donc il y a un enjeu de remise en état à assez court terme, qui est un enjeu lourd. À côté de cela, il y a l'enjeu d'ordre public, puisque même si la situation est meilleure que ce qu'elle a pu être, il y a une dizaine de jours, elle était extrêmement dégradée, au point que l'administration de l'État ne tenait plus la rue. Elle a recouvré partiellement le contrôle de la rue, mais il y a encore des barrages, il y a encore des zones qui ne sont pas pacifiées. La nuit passée, il y a encore eu un certain nombre d'exactions, de pillages et notamment de bâtiments incendiés. Vous avez rappelé lesquels.
Deux écoles, 300 véhicules.
Notamment. Et donc, le sujet, c'est pendant combien de temps encore devront rester les renforts ? Et pendant combien de temps encore ce territoire va devoir rester sous état d'urgence ? Parce que la loi de 1955 prévoit que c'est pour 12 jours.
Donc jusqu'à lundi, a priori, mais ça peut être prolongé.
Mais après, pour le prolonger, il faut de toute façon que ce soit le Parlement qui le décide. C'est prévu ainsi par la loi. Et donc, il faudrait un projet de loi qui a déjà, à titre de... précaution a été présentée au Conseil d'État, lequel Conseil d'État a rendu un avis conforme, mais on ne sait pas pour l'heure s'il est envisagé de prolonger l'état d'urgence.
Les mesures, d'un mot, concernant l'état d'urgence, c'est le couvre-feu nocturne, l'interdiction des rassemblements, du transport d'armes, de la vente d'alcool et de l'application TikTok.
Et les interdictions de paraître. Alors, l'interdiction de TikTok, c'est pas dans la loi de 55 et pour cause, mais on peut faire un rattachement puisqu'il était question du contrôle de la presse dans la loi du 3 avril 55. Mais dans ce que vous ne citez pas et qui a été mis en œuvre, il y a les perquisitions administratives, les interdictions de paraître, les assignations à résidence, et tout cela a été utilisé. Il y a un nombre de personnes, pas important, plusieurs dizaines, mais de personnes qui ont été l'objet de perquisitions administratives, d'interdiction de paraître et d'assignation à résidence. Bon, ça produit aussi ses effets. Si on vérifie que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, qu'on vient perquisitionner chez vous sans préavis, donc ça veut dire en clair qu'on a cassé votre porte et qu'on a retourné votre maison. Hein. C'est ça que ça veut dire une perquisition administrative, pour être clair. Et que par ailleurs, on vous interdit de vous rendre dans certains lieux. Ce sont des mesures qui sont des mesures assez radicales. Ça a été conçu pour ça, hein, la loi du 3 avril 1955. C'est Pierre Mendès France et Edgar Faure qui préside à Destinée de la France au moment où elle est adoptée. Bon, c'était pas des personnes qui étaient connues pour porter une atteinte majeure aux libertés publiques fondamentales. Mais c'est un contexte de guerre d'Algérie. Et donc, c'est une loi qui est faite pour donner des mesures exceptionnelles de police administrative dans le but de rétablir l'ordre. Mais là où il ne faut pas se fourvoyer de mon point de vue, c'est que ça n'est pas une crise d'ordre public, la Nouvelle-Calédonie. Les troubles à l'ordre public, les émeutes, les pillages sont la conséquence, certainement pas la cause de quoi que ce soit, et la conséquence de choix politiques qui ont été abondamment commentés sur ce plateau. Et donc, comme ça n'est pas la cause, ça ne sera pas le remède. Donc, on peut dire, comme l'a fait le président de la République, que la priorité, c'est le rétablissement de l'ordre, etc. Très bien, mais ça ne traitera qu'un volet symptomatique et certainement pas l'entièreté du mal.
Clémence Dibou, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Racontez-nous un peu le programme. Il est donc arrivé il y a environ une heure. Il est en route pour le Haut-Commissariat. Est-ce qu'on a plus d'informations sur les prochaines heures du président ?
Bien, parce que c'est à ce point tendu, on a très peu d'informations qui filtrent aux journalistes. Ce que l'on sait, c'est qu'il est effectivement, vous l'avez dit, arrivé à 8h30, heure locale, au petit matin, à l'aéroport international de la Tontouta, qui est toujours fermé, je vous le rappelle, aux vols commerciaux. Ensuite, ce que l'on sait du programme, c'est qu'il doit rencontrer des élus, des acteurs économiques au Haut-Commissariat de Nouméa, en centre-ville. Et on peut voir que dans le centre-ville, c'est complètement quadrillé par les forces de l'ordre, avec au moins 3 véhicules blindés que nous avons pu voir se déployer, pour dire à quel point cette visite, elle est sous haute tension. Il va rencontrer des élus, je vous l'ai dit, mais Sonia Backès, la présidente de la province sud de Nouméa, a expliqué qu'elle espérait que Emmanuel Macron aille à la rencontre de vrais gens, selon son expression, que Emmanuel Macron puisse se rendre compte de ce que les gens vivent au quotidien depuis 11 jours maintenant. Voilà pour le programme, on n'en sait pas plus pour cette visite éclair. Ce que l'on craint ici, c'est que l'arrivée d'Emmanuel Macron puisse donner des velléités à ce qu'on appelle ces jeunes perturbateurs qui tiennent encore des ronds-points et qui pourraient avoir envie de défier l'autorité d'une façon ou d'une autre, alors que, je vous le rappelle, les forces de l'ordre n'ont pas complètement repris le contrôle de la ville de Nouméa.
Merci beaucoup, Clémence Dibou, avec Dominique Berthaud. C'est rare, non, Philippe Vigier, qu'on ait aussi peu d'informations sur un voyage présidentiel, sur les interlocuteurs qu'il va rencontrer. Tout a été fait last minute.
Ça a été fait last minute parce qu'à un moment ou à un autre, il fallait y aller pour essayer de trouver une solution de sortie. On ne peut pas laisser ce territoire comme cela à feu et à sang et ça lui donner de nouvelles perspectives. Parce que comme ça a été très bien dit à l'instant, bien sûr, il y a le problème sécuritaire dans toutes ces dimensions que l'on vit pour établir la vie normale, je le disais tout à l'heure. Mais maintenant, après, il faut tracer un schéma politique. Et ce schéma politique qui ne peut se faire qu'avec l'ensemble des parties prenantes, tous les élus et de toutes les sensibilités, les indépendantistes, les loyalistes, de voir comment on peut sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Rappelle ce qui s'est passé en 88, c'est pour ça qu'aussi, ça n'a pas été dit ce soir, il vient avec une mission, donc il va y avoir des Sherpas, donc trois qui vont avoir cette difficulté à faire en sorte de trouver un compromis avec un État impartial, un État neutre, mais pour accompagner un nouveau dispositif. Mais moi, je ne crois que ça.
On peut avoir une crainte quand même.
Je vous donne le micro dans un instant, mais juste avant, on a une habitante de Nouméa, pardon, qui nous attend, et donc j'aimerais qu'on aille la voir. Vous vous appelez Doris. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous attendez quoi, vous, de la visite d'Emmanuel Macron ?
Bonjour, parce que c'est le jour chez nous. Bah, écoutez, ce qu'on en attend, clairement, c'est qu'il ne cède pas au terrorisme. Qui mène au bout sa réforme, parce qu'on ne peut pas négocier sous la contrainte, clairement. Sinon, ça serait leur donner raison à dire oui, dès que quelque chose n'ira pas ou que vous n'aurez pas, donc vous n'obtiendrez pas gain de cause, bah, vous pouvez prendre les armes. Et ça, ce n'est pas possible.
Vous les appelez les terroristes
Excusez-moi, il y a des bandes armées qui nous obligent à rester chez nous. On n'est pas en sécurité dehors. Comment vous appelez ça ? Ils nous mettent en joue sur les barrages. Et quand notre voiture leur plaît assez, bah, ils nous font descendre de la voiture et ils prennent les voitures. Vous appelez ça quoi ? Enfin, c'est incroyable. Ça va faire 10 jours qu'on est cloîtrés chez nous, qu'on fait la queue pour trouver à manger, qu'on ne peut pas aller travailler, que nos enfants ne vont pas à l'école. Excusez-moi, il y a des bandes, des milliers de jeunes qui sont dans les rues, armés, on veille la nuit pour protéger nos quartiers. Pour moi, c'est du terrorisme.
Alors justement, vous dites on veille la nuit pour protéger nos quartiers. Comment vous protégez, comment vous vous défendez ?
En fait, on fait des veilles de nuit avec des rondes, avec deux barrages, deux barricades, on va dire deux barricades de fortune, hein, parce que franchement, on n'a pas d'armes, on n'est pas équipé. Nous, on veut pas la guerre, hein, nous, on veut la paix. Mais on a des vigies sur les toits, on a des vigies embusquées dans un appartement, enfin cachées dans un appartement pour surveiller les accès qui viennent pas en bande. Et puis on fait des tours de garde. Alors certains travaillent, certains sont épuisés. Alors il faut absolument qu'on puisse se reposer dans la journée, mais pour ceux qui travaillent, c'est compliqué. Donc oui, les gens sont fatigués. Ça fait 10 jours, encore une fois. Donc 10 jours et 10 nuits. La situation n'est pas tenable aujourd'hui. Alors on remercie le président Macron de se déplacer. Hein, c'est preuve qui prend en considération Nouvelle-Calédonie, et on en est très heureux. Mais par contre, je m'interroge, j'ai peur de la tournure que ça peut prendre.
C'est-à-dire que ça dégénère un peu plus ?
Oui. Alors, deux choses. C'est que ça dégénère en fonction de la tournure des événements et de leur position, et surtout de cette position qui est de dire on veut l'apaisement, on veut le calme, donc on va se mettre autour d'une table. Mais c'est quoi ? C'est discuter avec un pistolet sur la tempe ? Je sais pas, mais enfin pour moi, le parallèle ou l'image est peut-être choquante, mais c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ma mère, encore une fois, qui a 88 ans, qui a Boulari. Elle est seule, ça fait 10 jours qu'elle est seule. Heureusement, j'ai des voisins auprès desquels j'ai pris contact pour maintenant, au bout de 10 jours, il faut lui donner des vivres. On est là, quoi. Je ne peux toujours pas aller voir ma mère. Donc moi, c'est ce dont j'ai peur, c'est qu'ils négocient sous la contrainte. Et puis, la prochaine fois, ils s'en sentiront plus forts. Je parle des indépendantistes. Pour la prochaine fois qu'ils veulent obtenir quelque chose, c'est de dire on peut reprendre les armes, ça a fonctionné.
Vous aviez déjà vu une situation aussi tendue en Nouvelle-Calédonie depuis que vous y êtes ? Vous y êtes depuis quand d'ailleurs ?
Alors, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'ai connu les événements de 84 et 88, donc j'avais 11 ans. Donc là où on habitait, là où habite ma mère toujours, donc à Boulari entre Saint-Louis la tribu de Saint-Louis et la tribu de la Conception, qui sont quand même deux tribus actives. Alors, on avait ma maîtresse qui m'a passée au-dessus des barrages pour le spectacle de fin d'année. Mes parents étaient restés de l'autre côté du barrage et qui nous avait repassé après parce qu'elle habitait à côté de la tribu de Saint-Louis. C'était une Européenne, hein. Mm-hmm. Mais comme elle les connaissait bien, voilà. Donc, j'ai connu tout ça, où mon père a débroussé derrière pour avoir plus de vues sur les brousses parce que derrière, il y avait un genre de petite forêt. Donc, il fallait avoir la visu ou s'il y avait du feu, qu'on se protège. On a eu tous ces dispositifs-là. Mais disons que c'était... on était dans un quartier sensible, mais les quartiers sud étaient beaucoup plus protégés. C'était en brousse qu'il y avait des sujets aux événements de 84 et 88. Mmh. C'était pas tous ces jeunes. Là, c'est ce phénomène de jeunes. Il y avait 15, 30 jeunes qui traînaient dans les quartiers sans aucun adulte. Des jeunes de 14-15 ans. Et ça, c'est terrifiant. Je ne veux pas non plus excuser la CCAT, hein, attention, parce que je pense qu'il y a de tout. Hein. Ils ont quand même été initiateurs de ces émeutes, pilotées par leur parti indépendantiste, hein, bien évidemment. Hein, ce sont pas c'est pas une bouscule isolée. Hein. Mais oui, c'est complètement différent. On sent qu'il y a une jeunesse désœuvrée. Et puis là, clairement, ils sont attaqués au poumon économique de Ducos. Hein. Il est dévasté.
Et vous dites, pas d'évolution depuis 10 jours, malgré l'arrivée de renforts, 1131 policiers et gendarmes en plus.
Alors, ça, c'est terrifiant. Alors... Il y a moins de feux, mais il y en a encore. La preuve en est, hier, deux grosses entreprises ont été ravagées par les flammes. C'est quand même terrifiant pour un chef d'entreprise de se dire « j'ai réussi à passer entre les gouttes » et 10 jours après, voir son entreprise brûler. C'est-à-dire qu'il y a des zones de non-droit qui n'est pas encore repris par les forces de l'ordre. Je vous parle même pas des quartiers. Donc non, l'ordre est loin d'être revenu, la sécurité non plus. Alors ils sont peut-être occupés au point stratégique, ils s'occupent du ravitaillement. Alors oui, on les remercie bien évidemment, mais je m'interroge à savoir s'ils sont suffisants ou pas. Parce que 10 jours après, pour nous résidents, on a des amis aussi qui sont à Caméré dans les quartiers du Cos, et ben ils peuvent pas sortir de chez eux, ils sont terrés chez eux, mais même pour s'alimenter, hein. Parce que là-bas c'est des zones de non-droit et très très dangereuses.
Vous restez avec nous, Doris. J'aimerais faire réagir Philippe Vigier, qui est l'ancien ministre délégué chargé des Outre-mer. Votre réaction quand on entend quand même le désarroi de ses habitants?
Je l'exprimais tout à l'heure, il faut imaginer que la Calédonie a été dévastée. Quand on voit le nombre de commerces, d'entreprises qui sont à l'arrêt, le montant financier qu'il faudra mettre sur la table pour reconstruire, ce sont des images absolument poignantes, terribles. Et ce qu'a dit cette personne est tout à fait vrai. Et qu'est-ce qu'ont fait certains loyalistes? Ils ont organisé naturellement des équipes qui étaient là, armées, pour faire en sorte que, eh bien, ils puissent protéger leur quartier, leur villa. Là, ce qui a été, m'a beaucoup interpellé, c'est par exemple des soignants. Je crois que c'est sur votre antenne qu'un chirurgien a expliqué qu'il ne pouvait même pas accéder à l'hôpital où il allait apporter justement des soins à ceux qui avaient été victimes de tous ces pillages. Donc, évidemment, le premier sujet, c'est le rétablissement de l'ordre et de faire en sorte que la vie redevienne normale. Mais je suis désolé, on est obligé de lier ça à un sujet institutionnel, un sujet de reconstruction. La reconstruction, je pense que le président peut apporter un message fort d'accompagnement de la reconstruction, qui va rencontrer l'ensemble des représentants des différentes entreprises pour voir comment, avec les élus locaux, on arrive à faire en sorte de donner cette perspective. Mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est inventer ce nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, d'ailleurs, je tiens à dire aussi à l'Assemblée, j'étais présent lorsqu'on a voté. Les Républicains ont voté. Le Rassemblement National a voté. Quand je vois Mme Le Pen qui nous explique qu'il ne fallait pas faire ça, pardonnez-moi, c'est facile de le faire dans les commentaires aux quatre colonnes après, mais c'était dans l'hémicycle qu'il fallait le faire. Et il disait même, une semaine avant l'Assemblée, qu'il fallait aller vite. Donc vous voyez que je crois que chacun aussi devrait faire peut-être un peu cure d'humilité en la matière.
Il faut retirer là le texte?
Non, je vous ai dit, il y a deux chemins. Il n'y a pas 36 solutions. Écoutez, il y a des consultations qui vont être faites pendant 24 heures. Soit ce texte, s'il est voté, il faut rappeler une nouvelle fois que c'est pas parce que le texte s'applique que tout est bouclé. Mmh. On a encore devant nous 18 mois pour organiser les élections provinciales. Dans ces 18 mois, on peut arriver à un accord global. Donc, ce qu'il faut, c'est rentrer en discussion avec tout le monde et faire en sorte ce qui n'a pas été réussi jusqu'à présent, on y arrive. Ou alors, si on retire le texte, il faut dire les choses très clairement. C'est-à-dire que les provinciales seront organisées plus tôt, sans que le corps électoral ait bougé. Et ça veut dire quelque part, il y a des citoyens de France, parce que c'est la France, qui ne seront que des sous-citoyens. Un constitutionnaliste s'est exprimé là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a une voie de passage. Il y a une question qui se pose. Et là, ça appartient au président de prendre l'initiative. Je termine pour une seconde. Est-ce que, oui ou non, on n'organise pas une nouvelle consultation? Et à un moment ou à un autre. Alors, certains
ce que demande diront, le Rassemblement national.
Certains diront, comme les loyalistes.
Dans 40 ans.
Certains diront, oui.
Dans 40 ans.
Voilà. Certains diront, oui, dans 40 ans, donc ça n'a aucun sens. Mais certains diront, comme les loyalistes, on a fait 3, donc c'est terminé. Si c'est le chemin de la paix, personne ne sortira gagnant tout seul.
Bien sûr.
Rappelez-vous Djibaou, rappelez-vous Lafleur. Djibaou, ses deux frères ont été tués. Il a su avoir cette grandeur d'âme pour dire le Caillou avant tout, la Calédonie avant tout. Donc, à un moment, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a des familles entre les Caldoches et les Kayaks et les Kanaks qui sont mariés, vivent ensemble, ils sont dans les mêmes quartiers. Là, il y a eu une cristallisation. Cette cristallisation, d'ailleurs, il y a aussi un peu d'instrumentalisation. Et il y a eu surtout des jeunes de 13 à 18 ans qui échappent complètement au contrôle des indépendantistes et qui se sont livrés à toutes les exactions possibles. Moi, je trouve que, on dit souvent que le président de la République arrive en disant « je décide, c'est terminé ». Non, là, il s'est mis dans une posture d'écoute totale et puis, écoutez, il prendra ses décisions d'ici 30 heures. En tout cas, il n'y a que ces deux possibilités-là et les deux, je crois, sont structurées.
Géraldine Wosner.
Non, je pense qu'effectivement, c'est assez terrible d'écouter Doris qui nous racontait son quotidien. C'est poignant. On sent beaucoup de souffrance, beaucoup d'épuisement. Et en même temps aussi, on sent déjà ce début de durcissement où s'éloigne, tant que ces situations perdurent, s'éloignent les possibilités d'un dialogue. Voilà. Où on sent cette rancœur vis-à-vis du camp adverse, qui a bloqué. Donc, la nécessité d'un dialogue apaisé apparaît, mais absolument centrale. Et quel que soit le prix, en fait, on a envie de dire. Bien quel sûr. Que soit le prix. C'est tant pis si ça doit coûter une réforme électorale qui, de toute façon, adviendra. Parce qu'on disait tout à l'heure, la population évolue, c'est la loi démographique. Que cette réforme électorale sera appliquée un jour ou l'autre, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6. Qu'importe, mais est-ce que la faire appliquer tout de suite dans 6 mois nécessite de mettre un pays à feu et à sang plutôt que d'attendre 5 ans? C'est ça la question finalement, parce que ça viendra, soyez-en certains.
Vous savez, on parle beaucoup de la lettre des accords de Nouméa et de ces fameux 3 référendums et ensuite de cette grande réforme institutionnelle, etc. Mais il y avait aussi l'esprit, en fait, de cet accord de Nouméa. Et quand vous le lisez, ce que reconnaît cet accord de Nouméa, elle reconnaît, un, la colonisation, c'est-à-dire le fait que vous avez des Européens qui arrivent en Nouvelle-Calédonie sur lesquels il y a... terre sur laquelle il y a déjà en fait des habitants, un peuple autochtone auquel ce texte, cet accord de Nouméa, reconnaît une identité, l'identité du peuple kanak, et c'est très important. Et tout à l'heure, Monsieur Vigier, vous disiez, mais vous vous rendez compte, le dégel du corps électoral, c'est obligatoire, les gens qui habitent là depuis longtemps, etc. Moi, je pose là, vous avez dans une certaine mesure tout à fait raison, mais en fait, on peut retourner dans l'autre sens et écouter en fait ce que disent les gens qui sont aujourd'hui révoltés et qui disent, mais nous sommes kanak. Et nous avons l'impression de nous faire voler notre terre. Et c'est vrai, et c'est aussi vrai, les peuples autochtones ont aussi des droits qui sont reconnus dans les plus grandes institutions internationales.
Mais Pablo, c'est
pour ça qu'il faut trouver un dialogue. Et tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il faut trouver un dialogue. Je terminerai sur une chose, c'est qu'il s'est passé aussi des choses ces derniers temps dont on n'a pas parlé, mais par exemple, Bruno Le Maire est allé en Nouvelle-Calédonie en novembre 2023. Il est arrivé, il a proposé un pacte pour... il a quasiment imposé un pacte nickel. C'est-à-dire qu'il a dit aux entreprises, maintenant, on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire plus de nickel. Enfin, vous allez sortir plus de minerais. Le problème de ça, c'est que dans les accords de Nouméa, la compétence nickel, c'était la Nouvelle-Calédonie qu'il avait. Et lui, il est revenu dessus. En fait, Je finis par une chose qui est très importante. En tout cas, c'est comme ça que l'ont ressenti les Kanaks. Ils ont dit, on veut nous imposer d'extraire plus de nickel. Je vais terminer sur une chose.
Oui, alors rapidement, parce que Clément Gibou nous attend.
Oui, il y a une proposition de loi qui a été déposée par un député, un des députés Renaissance, de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été déposée le 26 mars 2024. Et dans cette proposition de loi, il propose quoi ? De restituer provisoirement la compétence du nickel à l'État français. Mmh. Et c'est un député de la majorité qui dépose.
Je vous donne la réponse dans une ou deux minutes. Mais juste avant, Clémence Dibou, qui est sur place, nous attend. Donc j'aimerais quand même lui donner la priorité. Clémence, vous suivez donc le déplacement d'Emmanuel Macron. Que sait-on de la suite ?
Ce que je peux vous dire déjà au niveau du décor et de l'image, et on sait à quel point l'image, elle, la symbolique est forte dans ce voyage historique, c'est qu'Emmanuel Macron, ce qu'il va voir ici à Nouméa, ce sont des feux, des incendies. Il y en a un qui vient de se déclarer un peu au loin, vous le voyez sur les images de Domiti Berthaud. On a vu tout à l'heure des pompiers escortés par des policiers partir en cette direction, probablement pour éteindre ce feu. C'est quotidien, même si effectivement, on l'a dit, il y a beaucoup moins d'incidents que les premiers jours, c'est un peu plus calme, mais il y a souvent des incendies qui se déclarent comme ça dans la ville. C'est le cas ce matin, juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le centre-ville de Nouméa. Ce que l'on sait sur son programme, eh bien, c'est aussi une information à quel point ce voyage est tendu. On a très peu d'informations filtrées. D'habitude, en amont, on a un programme pour pouvoir anticiper. Là, on sait juste qu'il va se rendre au commissariat dans le centre-ville de Nouméa et qu'il devrait rencontrer là des élus locaux et des acteurs économiques pour parler des dégâts considérables ici dans l'île. Ensuite, eh bien, même sur le temps qu'il pourrait rester ici, normalement, c'est un voyage de 12 heures, mais il l'a dit ce matin en répondant à une question de journaliste, est-ce que vous pourriez rester plus longtemps ? Il a répondu, bien sûr, voilà pour le programme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque mot qu'il pourra dire sera scruté, décortiqué, tant les attentes ici sont considérables et surtout complètement contradictoires. D'un côté, les loyalistes qui voudraient avoir du soutien pour maintenir cette réforme électorale. De l'autre, les indépendantistes qui ont déjà expliqué eh bien, qu'ils avaient demandé aux jeunes de se calmer, mais que si Emmanuel Macron ne faisait pas un geste pour retirer ce projet électoral, eh bien, il n'y aurait aucune fin de mouvement à venir.
Merci Clémence Thibou avec Domiti Berthaud. Je vous l'avais promis, vous avez le droit de répondre à Pavo Pio-Vivien, Pierre Vigier.
Simplement, sans esprit polémique ni rien, sur le nickel. Je rappelle, voilà une traduction des accords de Nouméa. On a donné aux provinces la compétence économique et notamment l'autorisation des droits miniers. Mmh. Et ce qui a été dit par Bruno Le Maire, il y a eu une réunion qui a eu lieu à Bercy, dont je me souviens très bien, on leur a dit, voilà, si vous voulez un moment être compétitif, il faut qu'on ait des permis d'extraire et qu'après, derrière, on le transforme un peu mieux, qu'on le valorise. Si on le valorise, c'est plus des pouvoirs d'achat, c'est plus des salariés et l'économie qui sera que naturellement développée. Donc, après...
Il y a d'autres paramètres. Par exemple, la pollution que l'extraction de minerais. Et ça, c'est aux néo-calédoniens de choisir si oui ou non ils veulent extraire un minerai qui est dans leur sous-sol.
Mais je suis d'accord avec vous, mais n'ignorez pas le poids que pèse le nickel dans l'économie calédonienne. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il faut bien comprendre aussi que derrière la Nouvelle-Calédonie, il faut lui donner des perspectives de développement. Moi, j'entends...
C'est à elle de se donner...
Une image, pardonnez-moi, il faut qu'on commente aussi ce qui se passe.
J'entends les discours des indépendantistes, mais aussi, si on veut prendre une indépendance totale, on assume complètement l'indépendance.
Ils veulent pas...
Thierry Arnaud.
Mais, c'est pas ce que disent les Canaries.
Ils veulent discuter.
Que voit-on sur ces images, Thierry ?
On voit un cortège qui est potentiellement, évidemment, un cortège présidentiel. On est là où se trouve notre équipe avec Domiti Berthaud et Clémence Dibou. À l'aéroport de Magenta. Juste pour expliquer, il y a deux aéroports en Nouvelle-Calédonie sur Grande Terre en l'occurrence, et l'aéroport international, celui de la Tontouta, sur lequel s'est posé l'Airbus présidentiel. Et ça, c'est celui de Magenta qui se trouve tout à côté de Nouméa, sur lequel l'Airbus ne pouvait pas atterrir parce que c'était un petit aéroport, il n'y avait pas de piste assez longue pour accueillir un avion de cette taille. Donc, si c'est là que le président arrive, et ça n'est pas encore confirmé, on se dit en voyant ce cortège que c'est une possibilité, ça veut dire qu'il aura choisi donc de voler entre les deux aéroports pour aller de la Tontouta vers Magenta avant de se rendre au commissariat.
Parce que les routes, c'est trop risqué, ça donne une idée de la tension.
Effectivement, la route n'était pas praticable, si c'est ça qui se confirme dans les minutes qui viennent.
Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir commenté avec moi en direct ces images d'Emmanuel Macron tout juste arrivé en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, on va suivre son déplacement dans les prochaines heures. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le journal en direct présenté par Thomas Joubert. À tout de suite.